Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 15 juin 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre série de science-fiction classique que vous attendez tous. Beam me up, Scotty!
Précédemment dans le supplément week-end.
Et c'est là qu'on mesure son génie, capable de rebondir en moins de 2 minutes sur une histoire complète alors qu'il n'a strictement rien préparé.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Ça fait du bien d'être venu.
Et oui, donc, une programmation sonore spéciale aujourd'hui, tiens.
Alors, intégrale. Hein. Là, on est dans Voyage Absolu, dans l'inconnu, on connaît vaguement, mais on n'est pas bon. Donc, vous allez nous enflammer sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous écoutent en direct et sur le post de l'émission pour ceux qui nous écoutent en podcast.
Alors, c'est parti, là, on fait.
Vas-y.
Allez, on présente l'émission alors. Alors c'est moi qui suis chargé de vous présenter la thématique de cette émission spéciale. Alors il se trouve au départ qu'aujourd'hui, le véhicule ATV-4 Albert Einstein s'amarra à la Station Spatiale Internationale après avoir été lancé par Ariane 5 le 5 juin dernier.
À peu près vers 15h46 je crois.
Tout à l'heure, d'accord. Mmh. L'ATV-CC, centre de contrôle de l'ATV, est situé au CNES à Toulouse et il a longtemps été question de vous proposer une émission spéciale depuis le CNES, mais... comme ça n'a pas pu se faire, on va vous proposer autre chose à la place. Alors voilà, on va parler de Star Trek. Eh oui, Star Trek. Alors je précise, je suis pas du tout fan de cette série où un groupe de gars en pyjama aux couleurs des feux tricolores de signalisation et des pistolets en plastoc passent leur temps à papoter devant des boutons qui clignotent. Mais bon, c'est pas une raison, on va quand même en parler, d'autant que le nouveau film de J.J. Abrams, oui, le gars qui va se coltiner des sabres laser bientôt, est sorti cette semaine. D'ailleurs, du sport l'a pas vu. On va essayer de ne pas spoiler aujourd'hui.
Pour les fans, j'ai vu l'original.
Ouais. Alors pour les fans, alors on appelle ça les Trekkies, il paraît. Ouais. Salut Christine. Oui, nous irons un peu fouiner dans les détails. Pour les autres, sachez qu'il s'agit d'une série de SF des années 70 créée par un gars qui s'appelle Gene Roddenberry et que c'est là-dedans qu'on y voit le capitaine Kirk et Spock, le gars aux oreilles pointues et à la frange de Mireille Mathieu, et qu'en gros, l'équipage du vaisseau Enterprise parcourt la galaxie comme des cow-boys explorateurs pour découvrir des trucs inconnus. Ça va, j'ai bon ?
Je pense que jusque-là, on n'est pas planté, oui.
Ok, ouais, bah, ok. Alors, amis des réseaux sociaux sur le petit oiseau bleu et les livres de face, et voilà. Si vous voulez réagir en direct dans l'émission, vous pouvez nous insulter ou pour nous dire qu'on balance des contre-vérités ou qu'on fait complètement fausse route ou que, voilà, que vous n'avez rien à faire sinon. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, voilà, donc on citera à l'antenne vos réactions. D'ailleurs, ça commence fort puisque Antoine Boudet, il y a quelques minutes, nous disait que Star Trek par Abrams n'a rien de la trame originelle, tout repose sur des décisions par-dessus la jambe. Spock et Bones sont censés être les Jiminy Cricket de Kirk dans la série originale, là ils sont juste des cons. Voilà, ça commence fort.
Ah bah oui, c'est bien parti, oui, effectivement. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple, vous allez sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, c'est en bas à droite les liens vers les réseaux sociaux pour nous choper en direct. Et allez-y, ça va cogner.
Alors là, il y a beaucoup de boutons qui clignotent un peu de part et d'autre autour de nous.
De Paredo, de Pareo, de... Non, pardon, désolé.
Alors, je regarde les bastons t-shirts comme d'habitude. Alors, Xavier s'est séparé d'un magnifique t-shirt à l'effigie du héros de manga Cobra. Du sport fait dans la contre-programmation totale aujourd'hui, puisqu'il a un t-shirt de The Killer de John Woo. Donc voilà, what the fuck, on sait pas pourquoi. Tandis que moi j'ai dégainé mon Stormtrooper de Star Wars. Voilà.
Juste une chose d'ailleurs, un truc important, du sport a mis un niet absolu sur la préparation de cette émission pour une raison toute simple, c'est lui qui a le plus à perdre ayant une tréquise à la maison. Il est de vaisselle, si jamais il se plante. Et malheureusement, je me suis rendu compte au dernier moment que j'avais plus écrit sur la pré-production de la série que sur l'univers lui-même. Donc ça va être méga 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 chaud. On va peut-être parler un petit peu pour commencer.
C'est sûr, parce qu'au niveau épisode visionné, je dois vous battre à plat de couture et de loin.
Très largement.
Moi je pense que si j'en ai vu un en entier dans ma vie, je pense que c'est pas mal.
Je pense que celui que t'as vu au cinéma compte.
Ah, donc j'en ai vu deux.
Voilà. trois. C'est juste pour foutre la merde. C'est juste pour foutre la merde. Et à mon avis, là, on est bien parti pour avoir deux de la gueulante sur la gueule. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une série qui a énormément marqué, mais pas forcément à son époque. En fait, étonnamment, la série originale avait eu assez peu de succès. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, elle a eu une énorme influence, aussi bien dans le milieu de la science-fiction que dans le milieu scientifique, voire informatique, voire dans la vie de tous les jours. On en parlera tout à l'heure. Star Trek, la série originelle, elle est arrivée en 1966. On va parler tout à l'heure de Gene Roddenberry, donc son créateur, bien évidemment. Et à l'époque des séries télévisées de science-fiction, ben il y en a. Dans le genre space opéra, il y en a aussi. Il y a Buck Rogers. Il y a plein de séries qui existent
pour,
à l'époque.
Alors pour les profanes, puisqu'on nous dit des fois qu'on n'est pas assez, on vulgarise pas assez. Alors le space opéra, qu'est-ce que c'est?
Alors,
désolé de revenir aux fondamentaux, Xavier, hein, mais bon. Hein. Alors, le space opéra, c'est des films avec des vaisseaux spatiaux dans l'espace, c'est ça?
Plus exactement, avec des planètes et des races extraterrestres complètement délirantes. 2001, par exemple, c'est ce qu'on appelle de la hard science, c'est-à-dire que c'est
de la science,
quelque chose
de la science-fiction plausible.
De la science-fiction plausible et immédiate. Le space opéra, c'est des monstres à tentacules, c'est des trucs dans tous les genres. Et ben, par exemple, un bel exemple de space opéra, on peut le dire, c'est Star Wars. C'est encore, dans la série originelle, il n'y avait pas suffisamment, c'était pas suffisamment distancié par rapport à la Terre et aux humains pour être vraiment.
Donc il y avait une série Star Trek qui n'était pas forcément du 100% space opéra du coup.
Mais on peut considérer que c'est du space opéra tout simplement parce que ça rime avec soap opéra. Non, pardon.
D'accord. Ok.
Voilà. Si avec ça j'ai pas foutu la merde, c'est à désespérer de notre audience. Bref, vraiment de ce côté-là, c'est une série qui va montrer qu'elle va bien marcher, pas du tout, mais en tout cas, elle va marcher sur le plan scénaristique. Elle va marcher sur le plan scénaristique, on va en parler tout à l'heure, il y a une certaine influence par rapport à des classiques anglais, il y a aussi le fait que l'équipage ne s'en sort pas systématiquement toujours indemne, il y a... systématiquement dans chaque épisode au moins un membre de l'équipage qui meurt. Il y a un certain humour, il y a aussi un équipage multiracial. Imaginez quand même, on est en 1966 aux États-Unis, il y a un russe, il y a un japonais, on est quand même à la fois au summum de la guerre froide et à la fois 20 ans après la seconde guerre mondiale.
Il faut noter que dans la première partie les russes et les japonais,
il arrive que dans la deuxième saison,
sont un petit peu secondaires quand même, on est rôle secondaire, alors que Nichelle Nichols qui joue le rôle de je sais plus qui là,
la blonde,
la black justement, elle a un rôle un peu plus important.
Oura.
Parce que il y avait le rapprochement entre black et blanc à l'époque qui était vraiment très présent dans les dans toutes les têtes.
Et c'est vrai que c'est cela a été assez important. En plus, n'oubliez pas à la télé américaine en prime time caser un personnage diabolique, oreille en pointe, et à l'origine il devait avoir une queue. Je sais pas comment il l'aurait animé, mais ça aurait été amusant.
Diablo.
Voilà, exactement. Mais à ce moment-là, on est en 1966, on est en pleine course à la Lune, les États-Unis comptent bien y arriver avant les Russes, qui jusque-là avait brillé quand même dans la conquête du spatial. Les lancements de fusées font alors les directs des grandes chaînes. On interrompt toute la programmation pour passer 8 heures non-stop de décompte. On est dans une période d'argent à la fois dans la science-fiction et dans les comics de super-héros. On a quand même une production qui marche plutôt bien à cette époque-là. Il y a donc un réel engouement. Qui plus est, on a eu une époque où les chaînes de télévision laissent une grande liberté aux producteurs de séries. Même si pour Star Trek, vous allez voir, ça a plutôt été qu'un cas de ce côté-là. La série originelle, eh ben, elle se passe au 23e siècle. Espace, frontière de l'infini. Vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, l'Enterprise ? Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Alors, une maquette flottant devant des projections pour faire des économies de maquette, point de scène d'atterrissage ou de décollage, mais une téléportation, c'est pratique, un petit effet vidéo et on déplace les acteurs.
C'est surtout super pour aller à l'essentiel et puis pour escamoter des longs trajets.
Et encore, ça on verra dans The Next Generation que malheureusement, on s'est un peu écarté du concept originel. Gene Roddenberry, qui c'est qui fait la bio ? Tu te le sens comme ça ?
Vas-y.
Bon, moi de ce que j'ai noté, rapidement, né en 1921, décédé en 91, il est pilote lors de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite pour la Paname, puisqu'il avait donc un brevet de pilote. Il s'est crashé d'ailleurs, il a eu les félicitations à l'époque de l'aviation civile pour sa conduite très exemplaire justement lors de cet atterrissage forcé. Il devient policier au LAPD en 1949. Ouais. Vous vous rendez compte, il était pilote à la Paname. À l'époque, c'était le summum au niveau. Il touchait des salaires plus que des 4 sup. Et je vais devenir flic. Mais en fait, il s'est rapproché d'Hollywood tout simplement parce qu'il comptait devenir scénariste. Il était passionné en fait par l'écriture. Il sera donc simple flic de 49 à 56, époque pendant laquelle il va écrire des scénarios pour la télévision. Il a essayé pour le cinéma, ça n'a pas très bien marché. Et il va principalement écrire pour des séries policières ou des westerns comme Have Gun, Will Travel. Il va produire une série sur les Marines, Le Lieutenant, en 1963-64. Et donc ça explique justement qu'il est très à cheval sur la hiérarchie et tout ça. Et on va le retrouver après dans Star Trek, c'est-à-dire toutes les aimabilités entre les personnages, comme permission de monter à bord ou un tel officier sur le pont, etc. Et son idée de script de science-fiction a été présentée en fait à différentes chaînes qui n'en ont pas voulu. Il a présenté à Desilu, qui était un producteur à l'époque en vogue, qui avait fait la première.
Desilu, c'était la boîte de Desi Arnaz et de Lucille Ball
qui a été la première série autoproduite. Hein.
Qui avait qui avait produit auparavant un soap opéra qui marchait vraiment du feu de Dieu. Qui leur avait gagné énormément de fric et qui leur avait permis justement de produire d'autres séries dont Star Trek.
Ensuite les rues de San Francisco. Ils ont produit un paquet de ce côté-là. Il y a un premier pilote qui est produit qui est financé par la NBC qui ne convient pas sur le script. En fait, c'est les directeurs de la chaîne NBC eux-mêmes qui ont choisi le script et qui ont dit vous faites celui-là. Eux-mêmes ont dit ouais non, il marche pas le script, mais en fait c'est nous qui l'avons choisi. Fait extrêmement rare, ils produisent un deuxième pilote. Et sur la base de ce deuxième pilote, où je crois qu'il y a que deux personnes qui font partie du cast final, dont Leonard Nimoy, que va être produit la série en elle-même. Par la suite, la première série est produite, elle va pas vraiment cartonner. NBC menace de la déprogrammer.
Il faut signaler que ce pilote n'a été diffusé aux États-Unis qu'en 92, c'est-à-dire que les Ricains l'ont jamais vu l'époque où il avait été tourné, enfin après tournage, après production et tout ça. Ils l'ont jamais vu, ils ont attaqué direct avec la série. Mais le pilote, donc, il a fallu attendre, presque 30 ans, quoi, pour que qu'on puisse le voir à la télé américaine.
La première série donc qui est diffusée, elle ne va pas si bien marcher, je crois qu'elle arrive 52e série préférée de l'année, vu à l'époque le stock de production monstrueux qu'il y a, ça fait loin derrière, donc NBC parle de la déprogrammer. C'est l'une des premières campagnes de fans où ils écrivent en fait en masse à la chaîne pour dire non, vous allez sauver la série, on l'aime bien. Donc NBC décide de le programmer le vendredi soir dans le créneau de la mort. C'est le créneau où tout le monde part faire la fête, etc. Donc il n'y a personne devant la télé. La deuxième, c'est avec un budget qui est divisé, je crois, par trois, un truc comme ça. Finalement, donc, NBC va aussi le commissionner pour une troisième saison. Mais ça va pas sauver la série. Bref, elle aura pas franchement bien marché. Après donc cette première série, Gene Roddenberry va produire 2-3 films, je crois, en tant que scénariste et coproducteur, qui vont pas très bien marcher.
Il va s'engager. Il faut savoir aussi que concernant le pilote, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu 2 pilotes de la série.
Oui, je l'ai dit.
Ah pardon. Et que le premier pilote, en fait, il avait été refusé parce qu'il y avait pas assez d'action et que c'était trop blabla.
Non, c'était trop cérébral.
Trop cérébral. Donc du coup, il lui avait dit refaites votre pilote avec un peu plus d'action, un peu plus d'aventure. Et donc ils avaient pas aimé justement qu'il y ait un être diabolique qui soit dans l'entourage du pilote et enfin du capitaine. Et alors du coup il avait accepté des certains remaniements. Et par contre il était
Il était capitaine. Spock était capitaine.
Capitaine, mais il est resté commandant en second. Par contre.
Voilà, exactement. Sachant, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a une queue en fait même dans le pilote. Donc ça a fouté un peu mal.
Tu veux dire une queue derrière.
Gene Roddenberry. Ouais. Va s'engager alors sur les conseils d'Arthur C. Clarke dans une carrière de conférencier. Alors il va narrer les anecdotes de la série et tout ça, et puis il se dit bon, finalement, et vous savez, on a un bêtisier, on a les trucs loupés de Star Trek, tenez, je vais vous les passer. Il les passe en conférence, ce qui fait beaucoup rire, sauf un, c'est Leonard Nimoy qui va en prendre grippe à ce moment-là. Est en production une série de dessins animés, on va en parler tout à l'heure. On parle de faire une nouvelle saison. La nouvelle saison va devenir un film. Leonard Nimoy dit de toute façon, si c'est Gene Roddenberry qui fait le script, je suis en procès avec lui, moi je me barre. Donc ce qui s'est passé, il a été écarté. Finalement, il n'interviendra pratiquement plus sur les scripts généraux. Ça va plus être d'ailleurs les acteurs qui vont écrire la première série de films. Et quand The Next Generation va arriver, il va juste être producteur conseiller, c'est-à-dire il aura juste en fait un rôle honorifique. La série elle-même, on va en parler un peu plus tard. Il va décéder en 91, 3 jours après avoir vu le 6e film. C'est pour ça qu'il lui est dédicacé à sa mémoire. Mais après, il n'a pas vraiment laissé beaucoup de souvenirs dans les autres productions, à part donc la série Star Trek.
Non, mais c'est normal. Hein, mais disons que il a vu Next Generation, bien sûr, puisqu'il a l'origine du renouveau. Mais après, il était un petit peu malade et il est décédé avant de pouvoir voir la finalisation des autres séries dérivées. Voyager, DS9, quoi. Donc, par exemple, DS9, quoi, a commencé à être diffusé.
Alors, DS9, c'est Deep Space Nine, c'est une série dérivée de Star Trek.
Ouais, DS9 sort dans les années 90, en 92 ou 93 aux États-Unis, donc à l'époque de la mort de Roddenberry. Bon, il a pu voir la conception de la nouvelle série y participait, mais déjà à l'époque il était assez malade, mais il y avait quand même sa femme Majel Barrett, donc rencontrée sur le tournage de la première série. D'ailleurs c'est une des là qui figure dans le premier épisode de Star Trek, et ils sont ensemble depuis tout ce temps là Majel Barrett, qui fait également d'autres trucs, on y reviendra un petit peu plus tard. Moi, je me suis attaché surtout à regarder un petit peu la partie écriture, réalisation, et dans cette première série de Star Trek, la série originale, on a quand même des scénaristes qui tiennent hyper la route, des vieux de la vieille qui sont habitués en plus à écrire ce genre de scénarii, Norman Spinrad, Theodore Sturgeon, on a également Richard Matheson. Alors lui, faut dire qu'il a écrit des scénarii pour absolument tout et n'importe quoi, et c'est pas péjoratif quand je le dis, c'est-à-dire que on le retrouve dans beaucoup de séries.
Ouais, il essayait de vivre.
Oui, c'est ça, tout simplement, quoi. Alors il y a aussi Harlan Ellison, Harlan Ellison, Robert Bloch, le mec qui a écrit le bouquin Psycho, DC Fontana, lui qui était un jeune scénariste à l'époque, donc qui apprenait un petit peu, et qu'on a retrouvé dans Next Generation. Et là, il a eu une place nettement plus conséquente au niveau de l'écriture des scénarii. Est-ce que vous savez comment ça se prénomme McCoy?
Ah non, Hank McCoy, c'est X-Men,
c'est le pauvre.
Ah, punaise. Il arrête pas de l'appeler par son prénom dans la série, dans le film.
Bones.
Bones, oui.
Non, Bones, c'est son surnom, quoi. Bones, c'est les os, c'est son surnom, quoi. Mais son vrai prénom, c'est Léonard.
Leonard McCoy.
Voilà, Leonard McCoy. Et Scotty, comment il est prénommé? Scotty, puisque bon, son nom de famille c'est Scott.
Je sais pas, George.
Aucune idée.
Montgomery, voilà.
Quoi. Montgomery Scott. Ah ouais, c'est. Ah bah tiens. Ça rappelle des souvenirs. Ouais.
Montgomery Scotty Scott. Alors à signaler que aussi au niveau des réalisateurs, bon bah on a quand même du bon linge dans cette première saison, dont par exemple un certain Léo Penn qui réalise l'épisode numéro 5, Enemy Within. Léo Penn qui n'est autre que le papa de Sean.
Comme
c'est joli.
Oh, c'est mignon.
Ouais, il y a également Joseph Sargent et d'autres. Bon, on va dire. Bonne pointure hein, du cinéma d'Hollywood de l'époque qui réalisait leur épisode, mais bien entendu la chaîne faisait plus confiance aux réalisateurs maison, mais bon bah ok hein, c'était pas pour nous déplaire. À part ça bah j'ai un petit peu feuilleté les trucs et bon alors il faut signaler que l'épisode pilote a été repris, il y a un autre épisode qui a été diffusé, qui a été écrit par Gene Roddenberry lui-même, et il a écrit très peu de scénarii hein, de la série, hein. C'est à noter, hein. Il avait plutôt un rôle de conseil, il était producteur exécutif, bon créateur de la série, mais enfin, bon, mais il a laissé pas mal de gens travailler, donc ça a fait que ça a donné quelque chose d'assez intéressant, et donc l'épisode pilote donc a été réécrit, retourné, parce que bon, bah, ils n'étaient pas contents du résultat final du premier, de toute façon, quoi, et ça a donné The Ménagerie, donc avec le retour justement de Jeffrey Hunter qui était dans l'épisode pilote.
Il y a aussi donc après cette diffusion la série n'a pas vraiment marché, mais économie de la télévision américaine, on rappelle que c'est des grands réseaux qui en fait est distribué par les petites chaînes locales, et certaines chaînes locales n'ont pas de réseau derrière et rachètent les séries, en fait le droit de diffuser les séries à la 4e, 5e ou 6e fois, et c'est comme ça en fait que Star Trek va surnager, tout simplement parce que les audiences sont pas minables, elles sont plutôt constantes justement sur cette diffusion de séries. En 74, 5 ans après la fin donc de la série originelle, est lancée une version en dessin animé. 22 épisodes, doublés par pratiquement l'ensemble du cast original. Malgré les limites de l'animation américaine à l'époque, dans les années 70, il faut quand même reconnaître que c'était hyper à l'économie et ultra des, archi mauvais. Mais voilà, l'écriture était dans les canons de la série originelle. Si, en général par le même genre d'équipe, il y a les voix originelles, il y a toujours donc Gene Roddenberry qui est plus ou moins derrière, plus ou moins. Bref, la série est considérée comme plutôt honorable. Par contre, elle n'a pas eu du tout le succès sur le public cible, c'est-à-dire sur les enfants. Bah non, c'était plutôt les jeunes adultes et les adultes même qui regardaient la série. Bah oui, ceux qui avaient connu la première saison. Petite erreur de calibrage hein, sur les cibles, ça arrive. Bref, en tout cas, c'est une série qui est très peu connue, qui a été retirée d'ailleurs après Star Trek The Next Generation, qui était plus disponible en fait à la diffusion. Elle a juste été diffusée en France, je crois, en 98, un truc comme ça. J'en veux à du sport parce qu'il ne m'a pas prévenu à l'époque.
De quoi ?
Que ce Star Trek The Animated Series était passé. Bref, c'est surtout le film de 79 qui a relancé la franchise. Sauf que, en fait, avant de faire ce film, il y avait un projet de faire une nouvelle série en 77. La Paramount cherchant un programme phare pour créer une nouvelle chaîne de télévision, et ils y cherchaient en fait des programmes. Finalement, le projet de chaîne de télé capote. Donc, le projet de série est abandonné à 3 semaines du tournage. Mais une bonne partie des scripts qui ont été collectés ont été repris 12 ans après pour faire The Next Generation. D'ailleurs, c'est assez amusant de savoir qu'en fait, c'est le film qui a fait qu'on a connu la série en France. Date de première diffusion de la toute première série de Star Trek, 1982.
Enfin, de toute façon, c'est assez connu que la série Star Trek a plus marché aux États-Unis encore aujourd'hui qu'en France. Le deuxième marché, c'est
80,
le Royaume-Uni.
82,
mais...
c'est pas 81.
Je sais pas.
La première diffusion, un an après. Enfin, c'est début des années 80 en tout cas, quoi.
Mais c'est assez amusant de voir que ça n'a pas très bien marché. Finalement, ce qui en a fait l'audience, c'est la 5 et les multiples rediffusions au taquet. C'est ça qui a fait vraiment connaître Star Trek de ce côté-là. Enfin bon, voilà quoi. Oui, je pense que on va se faire un petit peu de...
Un petit break, là.
Ouais, un petit break. Je crois qu'on a même de la...
Pour recharger les propulseurs supersoniques et aller dans le... Voilà, j'essaie de trouver.
Bonjour, c'est moi, Tchekov. J'ai en ce moment à proposer un business. 4 kilos de marijuana spatiale. Excellente production. Pas de coupage chimique.
Ah bah dis donc, ça c'est une occasion, hein. Vous êtes sûr que c'est de la vraie, qu'elle n'est pas trafiquée? C'est de la quoi, elle vient d'où?
Au troisième pont supérieur, sur mon stand de marijuana spatiale.
Putain, c'est pas vrai, je le crois pas. C'est pas possible.
Salut à tous et bon planning. Bonjour, c'est moi Tchekov. J'ai en ce moment à proposer un business 4 kilos de marijuana spatiale.
Putain,
wow,
de la marijuana spatiale.
Putain, je cherche, putain, c'est de la folie, waouh. Je flash, waouh.
C'est un nouvel arrivage.
Un instant, Tchekov, quelles sont les contre-indications de cette marijuana spatiale?
Petit mal à la tête. Et on se croit dans Star Trek.
Putain, c'est de l'hollywoodienne, j'en étais sûr. Appelez la police militaire, on peut
non,
pas le laisser.
C'est trop dangereux, vous n'avez pas le droit de vendre cette marijuana spatiale. Vous le savez, ça. C'est interdit, c'est dangereux. Le capitaine Kirk vous l'a interdit formellement. Vous le saviez, ça.
Oh là là, il faut pas être coincé comme ça, ma chérie. Tu vas venir dans ma cabine, on va écouter du Bob Marley, d'accord?
Mosinor, c'est une des séries qu'il adore massacrer avec Space 1999.
Massacrer, c'est plus...
C'est amusant.
Ouais, c'est plus un hommage à...
On fait un petit break musical sur FMR dans le supplément week-end avec...
Par contre...
Paris ouais. Combo, mais que fait la NASA?
Voici une nette influence d'astres ébaudis, de comètes abrutis, de part et d'autre du croissant de lune. Vrombistes et pullules, des météores affligeantes, aux trajectoires dilettantes, aux trajectoires dilettantes. Bye.
Combo, extrait de l'album Attraction, sorti il y a une dizaine d'années, mais c'était assez sympathique et mignon. Et on a déjà des réactions assez amusantes quand même. Marco Lanier, salut Marco. Je croyais que tu étais en train de chasser nos amis de la NSA d'ailleurs. Qui fait une révélation, je crois, hein, Ultimatum.
Oui, il disait
Ce qu'on ne va pas dire, sinon ça dévoile une intrigue clé du film.
Ouais, non, mais c'est un sous-texte qui est présent depuis pas mal de temps. C'est le sous-texte crypto-gay entre Spock et Kirk. Alors il disait à quand le mariage devant Uhura.
Voilà. Pourquoi pas. Nathalie Rosenberg qui me dit parler du délire sur le capitaine et qui veut prendre sa retraite en devenant marchand d'esclaves dans le pilote. Et qui me dit t'as rien raté pour le dessin animé, c'était plus une série inanimée. Ben oui, ben je l'ai dit, hein, de toute façon qu'à l'époque la qualité de production de télé était assez effarante.
Sinon, en écoutant les bruits tout à l'heure du vaisseau Enterprise, ça me pousse à une réflexion totalement spontanée en direct. Alors je sais pas si vous allez être réactif dessus, c'est que est-ce que justement le film à la Star Trek, enfin les séries, les épisodes à la Star Trek, les histoires qui se déroulent dans l'Enterprise, est-ce que c'est pas justement une version futuriste des films de sous-marins en fait? Puisque d'ailleurs on voit
De toute façon le vaisseau porte un identifiant de vaisseau US Ship, ouais. USS Enterprise, ouais. Et ensuite oui il y a énormément de samples. Alors
parce qu'en fait si tu
c'est gain, si ma machine.
Parce que si tu remplaces l'océan par le vide interstellaire en fait c'est pareil puisque d'ailleurs t'as une référence on le cite beaucoup dans l'émission d'ailleurs qui est directe et qui est écrite par Tarantino dans USS Alabama. De toute façon c'est Denzel Washington qui dit à son second est-ce que vous aimez Star Trek, qu'est-ce qu'il fait Scotty quand Kirk lui demande un truc, j'attends que vous soyez mon Scotty. Donc la référence est assumée et puis elle est palpable, elle est là quoi.
Et c'est... puis franchement un bruit de sonar dans l'espace. Un bruit de sonar. Ça vous choque pas?
Non.
Bah oui, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire quand même, hein, mine de
non,
rien.
Non, mais c'est bien, c'est marrant parce que, ouais, franchement, ouais, je suis en train de capter ça. Tu remplaces le contexte sous-marinier, les torpilles, machin, par des lasers et des trucs nucléaires en fusion dans le vaisseau. C'est pareil, hein. Sauf que dans les sous-marins, t'as pas la téléportation par contre.
Ouais, ça leur manque, je pense.
Et puis tu peux sortir, tu peux sortir par l'écoutille, enfin le truc avec la manivelle. Mais alors dans l'espace, tu peux pas faire ça. Mais bon, on a vu dans le film Into Darkness, dont nous parlerons tout à l'heure, que on pouvait quand même tenter des sorties hasardeuses.
Vraiment hasardeuses.
Mais bon, on en dira pas plus.
D'un autre côté, donc en 87 est lancé le projet donc de faire une The Next Generation, de faire une nouvelle saison, une nouvelle série sur Star Trek, tout simplement parce que le studio qui est derrière, la Paramount, à l'époque je crois que c'est Sony qui en est propriétaire, c'est la seule franchise qui est vraiment intéressante à l'intérieur de ce studio. Il y a les 5 films qui ont cartonné.
Quand tu dis intéressante, ça veut dire potentiellement rapporteur
de l'argent. Financière, oui. Qui rapporte, oui, de l'argent, avec la série qui est maintes fois amortie et qui continue à faire très bien son bonhomme de chemin sur plein de petites chaînes. Donc ils sont allés voir les différentes chaînes, ABC, NBC, le réseau originel, ABC, CBS, CBS est associé à Paramount, et trois ont dit « Ouais, non, mais on ferait bien une mini-série et tout ». Paramount dit « Attends, excuse-moi, mais c'est là-dessus qu'on peut se faire du fric ». À l'époque, il y a un quatrième réseau qui est en train de se monter, qui va s'appeler la Fox, et la Fox a dit « Oui, mais alors, vu le budget qu'on a pour les tout débuts, hein, on va faire 13 épisodes pour une saison ». Alors, ils sont pas d'accord à la Paramount, et ils vont faire un pari absolument génial, c'est de dire on a plein de petites chaînes régionales qui rediffusent les saisons, et on va leur proposer notre nouvelle série en exclu. C'est ce qu'on appelle la barter syndication. Le principe est relativement simple en fait, c'est on vous file gratuitement l'épisode, vous avez droit à vous rémunérer à 5 minutes de pub là-dessus, et les 15 autres minutes de pub c'est pour notre pomme. Et ça va cartonner. Ça a été le plus gros budget pour une série télé hors network jamais produit. En même temps, ils sont baffrés des Emmy Awards, en veux-tu, en voilà. Ça va tourner 5 saisons. Et c'est là-dessus, justement, que à partir de The Next Generation, qui se déroule 100 ans chronologiquement après la série originelle.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait, effectivement.
78.
que va être construite donc Deep Space Nine, toutes ces nouvelles séries justement à partir de là. Ça va être un carton, 7 saisons, 178 épisodes. Bref, mais néanmoins, toutes les franchises ne marchent pas. Par exemple, en 2000 a été lancé Star Trek Enterprise, qui lui se passe bien avant la série originelle, puisque c'est le premier voyage spatial, c'est le premier Enterprise qui va dans l'espace et où ils doivent tout apprendre, ben, comment communiquer avec une race extraterrestre. On va essayer le warp, etc. Alors c'est super long parce que c'est assez hardcore, hein, quand même comme série. Du coup, c'est vraiment de la hard science et ça ne va pas marcher. Alors
pourtant, dit comme ça, ça a l'air intéressant.
Ça a l'air intéressant, mais ça n'a pas réussi. Tout le monde s'attendait à du space opéra, donc ça n'a pas réussi à vraiment décoller.
C'était avec qui ça?
Ouais, mais il y a Jerry Ryan dedans, quoi.
Et ce qui s'est passé, c'est pour les deux
en
autres
combinaison
saisons...
super moulante, quoi.
Ah, donc c'est une fille.
Ah oui.
Dans les deux saisons suivantes, finalement, ils vont très vite prendre. On va refaire du Star Trek à l'ancienne. Ça va pas décoller. Ça va pas franchement bien marcher. Ils l'ont porté à bout de bras en fait, en trois saisons, et ça va pas cartonner. Et je me rends compte quand même qu'on a très peu parlé de la série en elle-même. Donc, avant de parler de l'univers, moi, je veux parler de son écriture. Il y a quelque chose qu'on sait relativement peu, c'est que Star Trek...
L'émission spéciale Star Trek où on vous parle pas de Star Trek, en fait.
Ben non, parce qu'on est nul. Par contre, dans Star Trek, il y a des références continues à Shakespeare. Et moi, je pensais que ça venait, en fait, de The Next Generation, surtout parce que Patrick Stewart, celui qui fait donc le Capitaine Picard, est un acteur shakespearien qui était assez connu à l'époque. Et en fait, non, ça date de bien avant. Ainsi, dans l'épisode de la série originelle Cat Spaw, l'équipage donc se téléporte sur la surface de la planète Pyrrhus 7, et au sol, eh ben, ils sont face à trois sorcières qui leur chantent Winds shall rise and fog descend, so leave here all or meet your end. Et à ce moment-là, il y a Spock qui se tourne vers le capitaine et qui dit: très mauvaise poésie. Bah oui, c'est du Shakespeare, et en fait, toute la trame de cet épisode cite nommément Macbeth. Jusque donc dans ces quatre vers qui sont directement tirés de là. Et en fait, ben, énormément d'épisodes de la première saison sont des citations directes en fait de pièces de Star Trek. Dans The Next Generation, où on voit les Klingons, où ils parlent leur langue qui est spécifique, eh ben, ils citent dans Star Trek Shakespeare en version originale, entre guillemets. C'est-à-dire
enfin,
en Klingon,
bon,
en Romulien.
C'est parce que Shakespeare, c'est une de leurs bases de littérature, de poésie, de théâtre, de ce que tu veux. Comme nous, on pourrait citer Molière ou des auteurs classiques dans notre culture française, quoi. Franco-française. Donc, c'est pas l'événement le plus important. De toute façon, c'est lié à la personnalité de Roddenberry, et toutes ces séries s'en ressemblent d'ailleurs, quoi, même les plus sombres, hein, les dernières. C'est que y a un message qui pétrit d'humanisme, il y a un questionnement sur les problèmes de société, les problèmes actuels.
Série très humaniste.
C'est justement là qu'est le fond de la pensée de Roddenberry, et qui a été incarné par la suite, une fois qu'il est décédé, par sa femme Majel Barrett. Qui a hérité d'absolument tout, c'était sa femme, mais qui avait une partie également très active, pas seulement en tant qu'actrice invitée. On le voit surtout la régénération de Star Trek avec justement le Next Generation, avec tout le casting, Picard, donc le commandant Riker, on a également Data, Geordi LaForge, Michael Dorn, c'est le lieutenant Worf, quoi. Donc tout ce beau monde.
Et dans Next Generation, j'ai vu une photo de l'équipage. Alors moi, je connais pas du tout, mais apparemment il y a un Klingon dedans, c'est ça?
C'est Worf, ouais.
Ah ouais. Et en fait, il y a eu la paix entre les deux.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les Klingons sont amis, font partie de la Fédération, et donc Worf, lui, sur le vaisseau commandé par Picard, est le responsable des armées, de la force, de tout ce qui est les armes, quoi. Puisque on sait que les Klingons sont un peuple très guerrier, donc ils ont l'habitude, quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
Et ils ont été remplacés par qui et par quel méchant dans Next Generation?
Les Borg.
Ah, ah bah il y en a d'autres, il y a les Borg, il y a les Romulans, les Cardassians, il y a plein d'autres.
Comme, comme Kim.
Oui, pratiquement. Bien qu'à l'époque elle était pas trop connue quoi. Alors ce qui est très intéressant justement pour en revenir un petit peu à aux thématiques abordées, c'est qu'elles le sont par un groupe on va dire un petit peu plus restreint de scénaristes qui sont également producteurs. Hein. Je parle et bon des gens qui sont éprouvés quand même hein, dans le domaine de la télé. Michael Piller, Rick Berman, René Echevarria et Ronald Demour. Ronald Demour qu'on va retrouver un peu plus tard à l'origine du renouveau de Galactica, bien sûr.
Battlestar Galactica, on va en parler. Voilà. On en parlera tout à l'heure.
Rob Bowman, qui est également réalisateur, Kim Manner, c'est tout. Tiens, ces noms ne vous disent rien.
X-Files.
Eh ben voilà, Rob Bowman également, quoi. Donc, ce sont des faiseurs, on va dire. Hein. Ce sont des gars qui ont l'habitude de faire de la télé, qui font
du
bon truc. Il n'y a pas de problème. Ça marche très très bien comme ça, quoi. Alors, ce qui est assez intéressant aussi au niveau de Next Generation, quoi, c'est que t'as vraiment des épisodes qui sortent du lot, des trucs qui sont absolument monstrueux, des histoires. Tu dis putain quand même, c'est vachement bien écrit, c'est énorme.
Ouais, fais-nous saliver
on pourrait,
un peu, là.
On pourrait en faire des films et tout. Alors déjà, bon bah, il y a le premier épisode, Meeting at Farpoint, quoi. C'est-à-dire ça pose le climat général. Déjà, c'est très intéressant parce que bon, on y voit des apparitions et tout de personnages qui paraissent secondaires comme ça et qui disent bon ok quoi, c'est des guest starring, juste un épisode. Et ce sont des personnages qui vont devenir récurrents. Et alors, très emmerdant, j'en dis pas plus. Très emmerdant pour l'univers immédiat de Starfleet et du vaisseau du capitaine Picard en particulier quoi. Il y a également pas mal d'acteurs invités qui ont fait des guest starring et tout qu'on a vu dans d'autres séries, bon des habitués du genre comme Ray Wise, mais également Robert Knepper. Bon, à l'époque on le connaissait pas du tout.
T-bag.
Marc Margolis qui avait pas encore joué dans Oz à l'époque. Ashley Judd, Leonard Nimoy. Alors ça c'est un épisode assez marquant. Faut le dire, hein, c'est qui est pas vraiment un des meilleurs épisodes, mais c'est marquant parce que bon ben, je suis sûr que au moment de la diffusion, de la première diffusion, tous les Trekkies qui étaient là et qui étaient devant leur poste et qui regardaient ça, et qui voyaient, qui disaient putain, alors Leonard Nimoy, ils ont dû avoir une larme à l'œil, tu vois un truc comme ça, parce que bon, c'est quand même un truc assez énorme, quoi. Bon, après le pont a été franchi parce que après il y a eu, à part la série, il y a eu les films, les deux films, c'est-à-dire le premier Next Generation. Qui faisait le pont entre les deux, hein, puisque c'est le truc où on voit William Shatner et Jean-Luc Picard, Generation.
Ouais.
Mais à partir de First Contact, c'est-à-dire le premier film qui est entièrement dans l'univers de Next Generation, et où là, ça dépote à fond les manettes, parce que là, c'est les Borg, c'est vraiment une menace très très grave. Enfin, disons bon, oui, là, assimilate you. Enfin bon, c'est hyper glauque en plus comme ambiance. Picard qui se transforme en Borg et tout, donc bon. C'est vraiment très très bien. Moi c'est mon préféré de toute façon, quoi. Il y a pas à péter, hein, au niveau de toutes les périodes de Star Trek confondues, c'est quand même le meilleur. Réalisé par Jonathan Frakes, justement l'acteur qui joue le rôle du commandant Riker dans Next Generation. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc Ronald Demour, donc qui sera également de la partie, qui sera, on va dire, pratiquement le maître d'œuvre sur la nouvelle série Deep Space Nine. J'avais oublié de vous dire que comme ils sont dans le vaisseau et souvent bah il y a des voix qui sortent de l'ordinateur et tout quand Picard demande un petit truc et tout quoi c'est la voix de l'ordinateur et tout, et là dans Next Generation la voix de l'ordinateur c'est la voix de Majel Barrett tout simplement, mais qui fait également des apparitions physiques en jouant des personnages. Je crois qu'elle joue deux personnages différents, me semble-t-il, sur l'ensemble de Next Generation. Où, bon, on voit que elle n'est plus toute jeune, mais elle a gardé certains atouts qui pourraient en faire en saliver beaucoup de plus jeunes qu'elle. Et bon, voilà, j'en dirai pas plus, quoi, parce que bon, cette émission est peut-être écoutée par des enfants. si tu nous passais un petit peu de musique avant qu'on parle.
Ouais, j'essayais de trouver des samples amusants. Alors, beaucoup de choses.
Alors, j'allais vous citer également quelques autres épisodes. Il y a un épisode qui s'appelle First Contact, hein, d'ailleurs, dans Next Generation, dans un épisode de la série, hein, de toute façon. Il y a le final, quoi, c'est-à-dire le final en deux épisodes, All Good Things, qui est vraiment émouvant et tout. Bon, tu sens que c'est la fin et tout. C'est, mais c'est vraiment super bien traité. Il y a également Q-Who. Alors ça, c'est excellent. Ça, c'est très bon. Et bon, bah, je vous dis pas de quoi il s'agit parce que sinon, bon, bah, c'est, il y a une magie de la découverte qui est assez intéressante, surtout à propos de ce personnage qui s'appelle Q, interprété par John Delancey, qu'on voit dans le pilote, mais qu'on voit apparaître ensuite pas mal de fois dans les différentes. C'est un personnage récurrent, mais qui est assez important, on va dire. C'est un petit peu, c'est pas vraiment la némésis de Picard, mais enfin c'est un petit peu le mec qui va faire chier Picard tout le long, qui va titiller tous ses sens, toutes ses capacités cognitives pour le faire arriver des fois des choses bien, des fois des choses pas bien. Mais c'est tellement bien foutu, tellement bien écrit que tu prends d'affection pour ce mec-là. Alors que bon, c'est vraiment un mec qui peut foutre le bordel, mais grave quoi. Hein, disons quoi, c'est à l'échelle planétaire, à l'échelle spatiale hein, qui peut agir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très intéressant parce que si dans la série originelle, bon, on aborde des thèmes et on les transpose dans un univers qui est futuriste, bon, ça reste des thématiques qui sont générales. Alors que là, eh bien, on arrive dans Next Generation, là, la mayonnaise a pris, mais vraiment à fond les manettes, à savoir, et le thème de l'exploration futuriste, c'est-à-dire on va visiter des mondes qu'on connaît pas, on va régler des situations avec d'autres peuples qui ont pas l'air de vouloir faire la paix comme nous, mais également les problèmes sociétaux tels qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire fin des années 80, début des années 90, qui sont également évoqués comme dans la première saison. Mais il y a une mayonnaise qui se fait que ça fonctionne vraiment du feu de Dieu quoi. Bon, bien sûr, il y a quelques épisodes qui sont un peu plus mineurs que les autres, mais on peut dire que bon bah c'est vraiment la série bon, qui relance et qui fait monter la sauce surtout hein, au niveau Star Trek, parce qu'avant Star Trek, bon, à part les films, c'était les Trekkies qui regardait ça, basta, point à la ligne. Et là, c'est quand même le gros coup que fait Gene Roddenberry de faire renaître une série, de la transformer et de que ça aboutisse à une réussite complète, ce qui lui a permis justement de faire les autres séries par la suite.
Tout à fait.
Petite coupure.
Ouais,
juste
on va aller.
Juste après la coupure, restez avec nous parce que nous allons vous faire un petit quiz et vous pouvez participer de chez vous.
Il risque même d'en avoir plusieurs. Oh là, attends. Eh ben, il est pas parti.
Capitaine, on nous parasite.
Capitaine, il faut absolument aller secourir Monsieur Spock. Ça fait deux jours qu'il est coincé dans les toilettes.
Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade.
Il s'agit, semble-t-il, d'un cas de constipation.
Que voulez-vous que j'y fasse? Qu'il aille à l'infirmerie, nom de Dieu, bordel, qui se démerde. Alors, monsieur Spock, il paraît que ça fait deux jours que vous êtes sur ces chiottes.
L'appareil digestif des Vulcains a du mal à s'adapter à votre alimentation, capitaine. Essentiellement les noix et les noisettes.
Bah, faut pas s'étonner, vous les bouffez avec la coquille, on vous l'a déjà dit, ça. Et donc après, ça bouchonne, il faut pousser, quoi. Je peux rien faire pour vous. Remarquez, ça pue déjà.
Effectivement. Mon caca est composé de gaz méthane, différents déchets organiques, ainsi que de fibres de type cellulose.
Allez, monsieur Spock, faut pousser maintenant. Faut se concentrer, faut rien lâcher. On va l'avoir, ce Colombin. Allez, maintenant.
Encore une parodie de Mosinor. Little Girl, petite fille de l'espace, ultra orange. Vous écoutez le supplément week-end numéro 352, spécial Star Trek. La 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 la.
Dans les rideaux pour que tout soit encore plus beau.
Petite fille parle aux
Ultra Orange, Little Girl, petite fille dans l'espace.
Les petites filles viennent danser dans le cosmique. Les petites filles, tu seras l'atomique.
Accessing library computer data.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'en va?
Il y a l'officier du sport qui se barre.
Officier en second, revenez, c'est l'heure du quiz.
Manière de dire, j'ai les engins à faire tourner.
Allez.
Je crois qu'il a compris ce qu'il attend, puisqu'en fait, oui, effectivement, on a plusieurs quiz. On a vraiment de quoi. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de la production et tout le reste. Mais on va voir, on va chacun un petit peu subir la question. C'est toi qui commences, Thomas.
Oui.
Alors, vas-y.
Alors, un petit quiz sur les vaisseaux spatiaux en général et pas que de Star Trek.
Oula!
Alors,
à signaler que la TV4 commence à faire d'ailleurs les manœuvres.
Oui.
On les suit en même temps en fait sur Twitter.
Alors, quiz sur les vaisseaux spatiaux mais pas que.
Ok.
Ok. Alors, on commence plutôt soft. Alors, je vais noter les réponses. C'est parti. Dans quel film? Alors non, pas dans quel film. Dans l'épisode 4 de Star Wars, dans la VF.
4 ou 1
L'épisode 4. Voilà. Épisode 4.
D'accord, dans
l'épisode
le titre.
4, Nouvel Espoir.
Ah, ouf.
Yann Solo, donc, parle de son vaisseau. Et dans la VF, en fait, il n'a pas le même nom que dans la VO. Dans la VF, il s'appelle comment?
Le Faucon Millénaire.
Non. Ça, c'est... Non.
C'est après coup, ouais.
Non, il appelle comment dans la VF? C'est assez drôle, en fait.
Putain.
Bah en fait dans la VF il se c'est pas le même animal, c'est pas un faucon.
Donc ça doit être l'aigle millénaire ou un truc
après
comme ça.
Allez, vous y êtes presque alors il dit je vous présente le Millennium Condor. Voilà quand c'est un de Moïse Leslie allez zéro.
Oh, moi c'est rigolo comme nom.
Alors d'ailleurs, quand on parle de Yann Solo, il est d'ailleurs parti défendre notre vaisseau à lui tout seul en tant que président des USA.
Air Force One.
Oui, voilà.
Oh Air non. Force One, ouais. Oh non, j'avais pas
Après, alors là, par contre, c'est pour les acharnés de Alien, trois noms de vaisseaux dans la série.
Oula,
Nostromo.
Ouais.
Ça, c'est le tout premier, effectivement.
Putain. Ouf, après, c'est dur. Allez, c'est, on va dire, la franchise élargie. Hein. Ouais. Ça facilite les choses. La franchise élargie.
Alors là, je suis strictement incapable.
Bah, vous avez le Prometheus.
Je suis fan. Oh merde, son...
ah, oui, bah oui, oui, putain.
Et ouais, voilà. Et après, bon, là, le dernier, c'était dur à trouver. T'avais l'USS Sulaco, l'Origa, le Betty dans le 4. Bon, voilà. Mais bon, c'était la question qui titille un peu, voilà. Le bateau de Christophe Colomb.
Ben, c'est le Colisée. C'est
Santa Maria.
Ah, putain, merde.
Bravo. Bah ouais. Santa Maria et les deux autres bateaux sont partis à 3.
Ouais, ils sont partis à 3. Il y avait la.
Oh putain!
La Santa Pinta. Non.
Si, si, c'est ça.
Non, alors non, le, non, y avait... non. Les deux autres, c'est pas... il n'y a pas Santa dedans.
C'est pas la Pinta Conata.
Ouais, non, mais vous êtes prêts,
je me rappelle pas.
Faites plus simple,
que la Santa
vous
Maria.
Vous êtes
quoi.
Pour la ouais, Santa Maria, les deux autres, c'est la Pinta et la Niña.
Bah, la Pinta, ouais.
Ouais, voilà. Ah. Bon, ouais,
et la Niña, ouais, effectivement, qui était plus petit, quoi.
Voilà. Alors, question de rapidité. Alors, je précise, il n'y a pas le TARDIS dans ce quiz, ça sert à rien, Xavier. Hein bon. Alors, rapidité. Mon ordinateur de bord s'appelle Sherka. Sherka. Ça vous dit rien? Sherka.
Allez, on passe.
J'ai oublié le chemin de retour, Ulysse.
Ah oui, bah Ulysse 31, effectivement.
Donc le vaisseau s'appelle
L'Odyssée.
L'Odysseus.
Odysseus, oui.
Ah. Ou Xavier, là, t'es pas en forme.
Vraiment pas, mais c'est très dur, hein, avec
alors,
tous les boutons qui clignotent.
Les deux dernières questions, faut s'accrocher un petit peu. On peut me voir dans l'adaptation d'une série avortée, avec dans les rôles principaux une danseuse classique qui fait des arts martiaux et un futur auteur de romans policiers consultant pour la police.
Serenity.
Bravo, alors là,
oh là,
la belle concentration de Duce.
Ah.
Alors là, par contre, c'est du 1 et 2 et 3-0, là. Hein.
Ah non, mais là, je suis...
Allez, la dernière, c'est un mode hard. Alors là, par contre, je serais très, très surpris si vous trouvez. À mon bord, John McClane, Jeanne d'Arc avec des cheveux rouges, une réalisatrice oscarisée peinte en bleu avec des cubes dans son
cinquième
ventre.
Cinquième élément.
Et Bilbo, oui, le Hobbit. Alors, faut trouver le nom du vaisseau. Et Bilbo, le Hobbit, en prêtre, tentant d'empêcher la fin du monde. Je suis, le nom du vaisseau.
Ah, celle-ci, je pourrais pas. Alors.
Le nom du vaisseau dans cinquième élément, la Flowstone Paradise. Voilà, donc c'était le mode hard, c'est pour finir là-dessus. Moi, je suis allé sur le net, sinon, voilà, j'aurais été là. Ah! Alors, ouais, bah, c'est un 4-0, même pour du sport, puisqu'il a
okay.
Le Nostromo, voilà.
Ok, ben c'est à moi. Qu'est-ce
bon, je vous fais le topo.
Attends, tu vas attendre un petit peu avant de faire le deuxième quiz.
Si, il n'y a que 5 questions.
Bah, allez, comme ça, on torche.
Voilà. Un engin spatial qui a été inspiré par. Le nom a été inspiré par Star Trek.
Enterprise.
Oui, l'Enterprise qui était donc la sœur de Columbia, est... Discovery, Challenger, Atlantis et Endeavour. Combien de fois elle est allée dans l'espace?
Qu'est-ce qu'on tue qu'on sache?
Aucune, c'était la maquette. Et pour le lancement en fait du programme spatial des navettes, eh ben, ils ont fait venir le crew de la série originelle pour les photographier devant, mais en fait elle n'est jamais partie, elle était juste exposée.
Ouais, et l'Enterprise, le nom a été donné par Gene Roddenberry parce que c'était un des bateaux qui avait été torpillé à Pearl Harbor.
Oui, tout à fait. alors, il me faut le nom d'un modèle de téléphone. C'est qui de chez Motorola. La forme a été inspirée par le communicateur. C'est le StarTAC. C'était le premier téléphone à clapet. Et en fait, c'était directement inspiré à partir de là.
Je vais faire les mots croisés, moi, par
bon, d'accord, ok. Allez, vas-y, du sport.
Moi, je les ai terminés, déjà.
Non, aucune chance.
Allez, plus vite, c'est passé. Allez, vas-y. Sinon, il va nous ressortir les deux questions suivantes.
Vas-y, du sport. Je n'ai strictement aucune chance.
Ah bon, ok.
Est-ce qu'on appelle dans les critiques de jeux vidéo un degré de difficulté mal géré?
Ouais. Alors, parlons.
Tu veux dire un degré années 80, quoi.
Soyons à peu près complets, parlons des autres séries. Donc après Next Generation, Deep Space Nine. Deep Space Nine qui...
Donc tu nous avais fait un joli topo dans une précédente émission, puisque tu nous avais sorti que c'était l'adaptation télévisée que tu préférais.
Non, ça c'était il y a 5 minutes.
Non, c'était pas il y a 5 minutes, c'était dans une autre émission. Je crois que c'était à la 200ème ou la 300ème. Tu nous avais dit que Deep Space Nine c'était la série que t'aimais beaucoup. Oh. Parmi les séries préférées que t'avais.
Ouais. Mais Next Generation aussi, quoi. Disons que c'est la thématique est un petit peu différente. Parce que la nouveauté dans Deep Space Nine par rapport à Next Generation, c'est que Next Generation en fait reprend les mêmes codes que Star Trek la version originale, à savoir un vaisseau qui va dans l'espace, tout board Ligo, where no one, et tout le pataquès. Sauf que là, ça se passe sur une station, c'est-à-dire que ils ont pas de vaisseau, ils se déplacent pas. Ils sont supposés ne pas se déplacer, du moins, parce qu'ils vont se déplacer quand même un petit peu, profiter de la technologie ambiante. Alors, ils sont en fait sur une espèce de station orbitale qui décrit une orbite de 60 km autour d'une planète qui s'appelle Bajor, et une planète que la Fédération a nouvellement libéré du joug des Cardassians, encore eux, toujours eux, il n'y a pas de problème. Et ils ont libéré cette planète, et donc comme ils sont vraiment à la frontière, on va dire, entre ce qui est pacifié par Starfleet et ce qui est encore un petit peu mouvant, les Cardassians qui sont reculés, mais enfin qui ont toujours des velléités offensives, des velléités de conquête, et pas que eux d'ailleurs, d'autres également, c'est une station d'observation, mais également une station qui est là pour défendre, on va dire, un petit peu ce bout de frontière, mais également pour remettre un petit peu de l'ordre et reconstruire carrément une civilisation entière qui a été réduite en esclavage par les Cardassians, qui n'a plus aucun repère. Et donc en fait c'est ils participent un petit peu à la construction d'une planète et d'un monde sur cette planète complètement nouveau, qui va pouvoir instaurer les règles qu'ils veulent, sans avoir de background pratiquement, quoi. Donc page neuve, page vierge, quoi. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que parmi les personnages principaux, on a bien entendu Sisko, le commandant, personnage principal de cette série, qui est le patron donc de cette station Deep Space Nine, interprété par Avery Brooks. Avery Brooks, on l'avait vu dans la série Spencer for Hire. C'était le pote qui filait des coups de main à Robert Urich, quoi, qui était l'inspecteur Spencer, quoi. Donc, et il y a toujours un pote qui lui file des coups de main, pas un indic, mais enfin un mec qui est toujours là pour les bons coups. Il obtient enfin un rôle principal. Robert Aubergenois, qui joue le rôle de Odo, une race extraterrestre un petit peu bizarre, avec assez proche de la race humaine au niveau apparence, mais enfin pas du tout la même chose. On a également Cole Minet qui avait déjà des apparitions assez récurrentes dans Next Generation, parce que justement faisait partie du personnel d'une station située très loin dans la galaxie, et très loin en terre pratiquement inconnue, pour ne pas citer une émission. Et Cole Minet, il a un rôle récurrent. Donc dans cette série Deep Space Nine, on a également Michael Dorn, le commandant Worf, qu'on a vu dans Next Generation, mais qui n'apparaît que à la fin de la quatrième saison. Pourquoi? Tout simplement parce que Deep Space Nine commence alors que la diffusion de Star Trek Next Generation n'est pas encore complètement terminée. Donc ça pose quelques petits problèmes de logistique, entre autres. Alors il faut noter que c'est toujours le même team qui est à la tête de cette nouvelle entreprise, à savoir Brick Berman, Michael Piller, Ronald D. Moore et quelques autres, René Echevarria, qu'on retrouve encore, qui est toujours là, qui était de la première mouture, je rappelle, qui avait écrit quelques épisodes dans la première mouture de Star Trek, et là qu'on retrouve donc dans Deep Space Nine, pratiquement 30 ans après, presque 30 ans après. Alors c'est assez rigolo, parce qu'il faut savoir que Sisko, donc le héros de cette série, a un rapport direct avec ce qui se passe, parce qu'en fait on apprend au bout d'un certain moment que, par exemple, il voue une haine absolument féroce au capitaine Picard. On se demande pourquoi, parce que ils sont du même corps d'élite, de commandant de vaisseau, tout ça, mais on apprend que justement pendant qu'il y a eu First Contact et que Le capitaine Picard s'est transformé en Borg, d'ailleurs ça s'appelait Locutus and I, il y a un épisode qui s'appelle comme ça dans la série. Et Locutus, quand ils attaquent justement, quand il y a une grosse bataille spatiale, qui a justement cette bagarre pour délivrer cette planète bajorienne, lui qui est contre justement quoi Picard, il descend le vaisseau dans lequel il y a la femme de Sisko qui meurt. Dans cet accident, donc il en veut un petit peu quand même, alors que à l'époque Picard il n'était pas Picard, il était un Borg, donc il savait pas ce qu'il faisait quoi. Mais enfin bon, il y a plein de petits trucs comme ça qui sous-tendent justement et qui entretiennent un petit peu le lien avec la précédente série, parce que justement on retrouve des personnages qu'on a déjà vu la précédente série qui sont également présents là. Il y a également Armin Shimmerman qui joue le rôle de Quark, alors lui c'est le barman qui c'est assez rigolo, et également Whoopi Goldberg commence à avoir un rôle assez récurrent. Donc une série qui est assez intéressante aussi, que moi j'ai trouvé vraiment très très bien foutue. Un petit peu plus courte que Next Generation, il y a que 6 saisons, mais qui est quand même vraiment très 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 bien foutue quoi. Après c'est la série préférée je crois de Demis Broussos, Star Trek Voyager. Ou la grosse nouveauté, c'est-à-dire que Deep Space Nine, ça a tendance un petit peu à faire chier les Trekkies parce qu'eux, ils aimaient bien les voyages spatiaux et tout. Alors que dans Deep Space Nine, ça se passe,
ça bouge pas.
Soit dans la station spatiale, soit ils vont sur la planète. Donc c'est pas compliqué, tu vois. Et de temps en temps, ils vont se fighter avec des Cardassians rebelles qui veulent pas écouter leur chef, qui leur a dit que non, il faut pas se battre avec la Fédération, on a signé la paix. Du moins, ce n'est qu'un armistice. Attendez, les autres, non, on veut en découdre. Et puis allez, vas-y, quoi, une petite escarmouche. Mais ils sont là pour régler le problème.
Du sport, sache que tu es.
Là ça arrête pas de sauter.
Il y a
sauter,
Antoine
oui.
Boudet sur Twitter qui est attentif à tes propos. D'ailleurs, il nous donne des précisions. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les précisions qu'il donne, tu y viens 2 minutes après toi-même. Alors, pour l'instant, je n'interviens pas.
Ok.
Mais voilà. Okay, donc,
ça marche. Alors, dans Voyager, justement.
Nous dit Whoopi Goldberg avait déjà un rôle important dans The Next Generation.
Oui. Oui. Un rôle différent de celui qui est là. Bon, c'est le même personnage, mais un rôle différent dans Deep Space Nine par rapport au rôle qu'elle a, par rapport au personnage dans Next Generation. Voyager, donc. Alors, la nouveauté, c'est Deep Space Nine, justement, les gens se faisaient chier, plus ou moins. Enfin, une partie des gens se faisaient chier, donc, à regarder cette série. Puis bon, ils se sont dit, on relance la machine. On repart pour des voyages, mais le problème c'est que on a déjà épuisé le filon parce qu'on l'a déjà fait deux fois. On l'a fait dans l'original, on l'a fait dans Next Generation, c'est-à-dire que un vaisseau qui part comme ça quoi, aux frontières de l'espace, aux frontières connues pour voir un petit peu ce qui se passe. On l'a déjà fait deux fois. Donc comment on peut faire pour que ce soit nouveau? Déjà on va foutre une femme à la place d'un mec.
Allez, ça c'est torché.
Et c'est Kate Mulgrew qui s'y colle et très très bien. Hein, Captain Janeway là, excellent. Elle tient la boutique comme c'est pas permis, avec également Robert Beltran dans le rôle de Chakotay, un extraterrestre. Donc on a également Tim Russ qui joue le rôle de Tuvok, on a également Roxanne Biggs Danson dans le rôle de Bielana Torres, et Robert Picardo bien sûr, qui joue le rôle du docteur, qui en fait n'est pas un être humain, c'est un androïde quoi, mais c'est lui qui est chargé de soigner absolument tout le monde sur le vaisseau. Et là où c'est très intéressant dans cette série, c'est que là vraiment ils y vont à fond. Ils se lâchent un petit peu. Autant toutes les anciennes séries, que ce soit les films, que ce soit les anciennes séries depuis Deep Space Nine jusqu'à la série originelle, on peut dire que la violence est très très soft. Il n'y a pas de d'effusion de sang qui sont graves. On a l'impression que ça fait même pas mal quand ils se fight. Le mec il dégonne un coup de laser, hop, le mec il tombe même pas un soupçon de fumée parce que il est en train de cramer, alors qu'un laser ça doit quand même vachement cramer à mon avis. D'après ce que j'en connais,
pour les odeurs, les débris, à mon avis,
c'est très très soft, on va dire. Hein. C'est très propre,
chirurgical.
Hein. Ouais, très propre, on va dire. Bon, il y a quand même quelques trucs qui dépotent un petit peu, mais alors que dans Voyager, ils se lâchent un petit peu plus et ils se disent, ok, on peut y aller. on va un petit peu dégager le truc, et c'est contrebalancé par le fait que justement bah c'est quand même une femme qui a la tête du truc, c'est elle qui a le pouvoir de décision, même si dans certains épisodes elle va se faire ravir ce pouvoir, mais bon bah c'est quand même elle qui est la maîtresse, et bon ça on le sent, et c'est elle qui tient la barque vraiment dans tous les sens du terme, du début jusqu'à la fin de cette saison Voyager. Vite fait, tu parlais de Enterprise, la série avec Scott Bakula et Jeri Ryan entre autres, qui est justement une idée qui est vraiment très originale. Bah, je disais juste à l'instant qu'il commençait à avoir épuisé le filon avec Voyager, qui n'était que la troisième ressucée d'une idée originale Star Trek originale, quoi. C'est la même chose, quoi. Et ils se sont dit bon bah là on peut pas faire mieux. On a déjà fait le vaisseau qui se déplace, on a déjà fait la station orbitale. Qu'est-ce que tu veux foutre d'autre, quoi ? Eh ben on va dire bah non, bah on va partir depuis le début, avant. Et donc les c'est là l'idée qui est très intéressante, qui est très intéressante.
Enfin, la préquelle, en l'occurrence.
Voilà, parce que elle est traitée complètement différemment. Et puis bon, c'est une série qui se passe, on va dire, sans jeu de mots idiot, très terre à terre, quoi. Donc les gens découvrent, et c'est ça qui est aussi très intéressant.
Et c'est quoi ce bouton ? Non, connasse, non. Pas
Alors par contre, je voulais quand même vous parler de l'épisode culte. Que tout le monde doit voir, s'il y a qu'un épisode culte qu'il faut voir dans Star Trek.
Balance la référence.
De toute façon, c'est celui avec les Tribbles, quoi. Hein, qui est un épisode absolument hilarant, quoi. C'est
Avec trop d'amour. Ouais, on voit une de ces bestioles d'ailleurs dans le film, au bout d'un moment.
Oui, non, mais c'est un truc. Ouais, voilà. Et donc, c'est l'histoire. Il y a un type qui se retrouve dans le vaisseau Star Trek à un moment donné. Il est pas prisonnier, mais enfin bon, il est plus ou moins invité, on sait pas trop. Et en fait, ce type est capable de reproduire à volonté une espèce de petite fourrure comme ça, des boules toutes mignonnes qui font des petits bruits, bip bip, mais qui peuvent se reproduire. Ce qui fait qu'au bout d'un au départ c'est rigolo, c'est mignon et tout, pouf pouf et tout. Et puis au bout d'un moment, et ils en trouvent partout, ça, ils ouvrent un placard, il y a plein de trucs qui dégoulinent, qui tombent partout. Enfin moi, c'est
un épisode parodique alors, enfin comique.
Pas vraiment, quoi. Disons que bon, c'est entre les deux, quoi, on va dire, quoi. Mais c'est vraiment un des épisodes de culte. C'est un des épisodes qu'il faudrait montrer aux gens pour expliquer voilà ce que c'est Star Trek, en leur expliquant bien le truc du second degré, replacer les choses dans leur contexte historique, hein. À l'époque, les effets spéciaux c'était pas ça, les budgets non plus. Donc un épisode qu'il faut voir également. Alors, il y a d'autres épisodes, et ça c'était récurremment employé. Bah, c'est les voyages dans le temps aussi.
L'épisode des Tribbles, c'est de quelle série ça ?
C'est la série originale.
D'accord.
Je crois que c'est dans la deuxième saison, me semble-t-il.
Je ne saurais te dire. En tout cas, l'humour dans la série, il y en a toujours eu beaucoup. Il y a eu des parodies, comme par exemple le film Galaxy Quest avec Sigourney Weaver et tout ça. Mais étonnamment, c'est l'humour qui est développé dans The Next Generation qui a montré que le cast vraiment ne se prenait absolument pas au sérieux. Ils ont fait un épisode ils ont fait un sketch pour Saturday Night Live qui s'appelle tout simplement The Love Boat, The Next Generation. Avec tout l'équipage en fait du Star Trek et The Next Generation et l'équipage de The Love Boat de La Croisière S'amuse, avec la musique de La Croisière S'amuse dans l'espace, c'est complètement délirant. Faut dire en fait que The Next Generation aussi, il sortait des fois un petit peu de l'humain, c'était un peu les scripts, ainsi la caricature qu'en fit Ronald D. Moore, qui a été scénariste puis producteur sur The Next Generation. Ce qui m'agace dans la série, c'est que le truc, c'est qu'il y a toujours un problème de truc qui met le truc. Alors le truc qui met le truc, et donc là, paf, la panne, donc il faut truquer le truc pour truc et tout ça. Ça a tellement agacé justement le côté ultra high-tech et tout ça, un petit peu complètement overspace. Que quand il a fait le reboot de Battlestar Galactica, dès le premier épisode, après les pilotes, il va donner le ton, c'est-à-dire que les humains sont attaqués par une technologie qui est supérieure aux leurs et qui vient de leur propre technologie, ils sont obligés de revenir en arrière au niveau technologique. Le premier épisode s'appelle 33 minutes et les caméras sont braquées sur des horloges à aiguilles jusqu'à ce qu'attendent la 33e minute. Et inutile de dire qu'il a été vu comme un traître par les Trekkies. Et c'est lui qui est caricaturé comme victime de l'épisode de la 9e saison des Experts qui s'appelle Space Oddity, l'Odyssée de l'espace, qui se passe dans une convention de Trekkies où on voit toute l'équipe des geeks en fait des Experts. On découvre que voilà, ce sont des Trekkies absolus et qui est un épisode qui est à pleurer de rire. On voit quand même une bonne partie du staff des Experts en pyjama spatial et tout ça, qui est quand même un grand moment, une crise de fou rire absolument géniale.
Bon, si on parlait du film à présent.
Allez.
Ok, attendez, si vous me laissez le temps de lancer. Hop, le bon jingle, parce qu'il faut le bon jingle pour le coup. Et qu'évidemment, je n'ai pas sous la main. Ah bah si, il est là. Allez, vas-y. Un bon vieux jingle années 80.
Alors sinon, oui, pour rebondir sur les réseaux, on nous signale un épisode qui a l'air intéressant aussi, je sais pas si ça t'évoque quelque chose du sport, c'est l'épisode où Worf adopte une pupille de Starfleet dans la deuxième saison de The Next Generation.
Oui, oui, c'est possible.
Qui était pas mal.
Oui, oui, non, mais bon, vraiment, il y en a, je veux dire, pour une série, c'est une très bonne série parce que tu peux regarder l'ensemble des saisons sans trop te faire chier, quoi, vraiment, quoi. C'est ça qui est agréable, c'est vraiment très varié, il y a un petit peu tout. Il y a des épisodes qui sont franchement plus hilarants que d'autres, d'autres qui sont vraiment très sombres, d'autres qui vont être un petit peu captivants parce qu'il y a un petit peu plus d'action, mais bon, c'est pour cela que c'est vraiment très très intéressant.
Alors parlons du film Star Trek de J.J. Abrams, deuxième film de J.J. Abrams après c'est comment il s'appelait le premier
Star Trek tout court.
Alors donc faut savoir, bon je l'ai dit tout à l'heure, que les recettes normalement quand il y a un film qui est exploité à travers le monde, il y a toujours plus de recettes à l'international qu'aux États-Unis, et là c'est l'inverse parce que Star Trek est une institution aux États-Unis, moins à l'étranger à part au Royaume-Uni qui fait un bon pourcentage. Donc les commerçants se sont dit, tiens, comment on va vendre le film, parce qu'il faut pas trop miser sur le côté Star Trek, sinon les gens ils vont être refroidis. Donc selon les pays, ils ont plus ou moins ciblé sur le côté attaque terroriste, voilà, et c'est pour ça que sur la couverture t'as pas d'Enterprise, t'as pas l'équipage, t'as juste le personnage qui est introduit dans ce film là, donc le personnage d'Harrison dont on y reviendra tout à l'heure, qui avance vers le spectateur. C'est ça, c'est l'affiche, et c'est surtout Into Darkness qui est mis en avant plutôt que Star Trek.
C'est vrai.
Voilà, c'est plutôt vu comme un film indépendant. Et c'est vrai qu'il y a aussi une rupture de ton, puisqu'il y a, on voit un peu moins d'espace et un peu plus de la Terre avec l'institution Starfleet, les gens qui ont vraiment les pieds sur Terre et tout. Donc, moins space opéra. Donc, Star Trek Into Darkness, film de J.J. Abrams, avec toujours le casting de l'épisode précédent, donc Chris Pine, Zachary Quinto, cette fois-ci le petit nouveau Benedict Cumberbatch, lui qui faisait le rôle titre de la série Sherlock. On a toujours Zoe Saldana, Alice Eve, c'est la nouvelle également, Carl Urban, Simon Pegg, Bruce Greenwood, et donc le nouvel arrivant, Peter Weller. Donc Peter Weller, évidemment, Alex Murphy, Robocop, ainsi que plusieurs rôles récurrents dans des séries. Le pitch du film: frappé de plein fouet par des attentats terroristes sur son propre sol, Starfleet voit son commandement décimé. L'amiral mandate donc le tout frais destitué Kirk, puisqu'il a fait une grosse bourde au début du film, pour aller zigouiller le responsable du carnage, le redoutable John Harrison, qui est un ancien de la maison Starfleet, qui est à présent terroriste. Sauf que celui-ci, il a bien calculé son coup, parce qu'il se cache sur Kronos, en plein territoire Klingon. Donc ça va être pas une sinécure pour aller le chercher, pour aller l'éliminer. Alors voilà, donc attaque terroriste, c'est marrant. Toutes les franchises aujourd'hui se mettent à l'attaque terroriste avec l'ennemi qui frappe de l'intérieur. Batman, Avenger, James Bond, tout le monde s'y met, avec, si tu peux mettre aussi une petite dose où le méchant se fait plus ou moins capturer, je me rends pour mieux frapper de l'intérieur et tout. Je ne dirais pas si c'est le cas ici, mais c'est vrai que c'est aussi la cerise sur le gâteau. Donc c'est vrai que quand tu analyses des décennies cinématographiques, tu vois le sous-texte politique, géopolitique derrière, donc forcément dans des périodes troublées, l'ennemi vient de l'intérieur. C'est normal. La série originale Star Trek, c'était la conquête de territoires inconnus, c'était le côté western, on y va comme des cow-boys, on va pacifier, on va aller voir des gens qui sont un peu qu'on connaît pas. Mais là c'est le retour du bâton, c'est l'ennemi qui est chez nous, voilà. Donc le film n'échappe pas à la règle. Un semi-reboot pour le premier film, puisque c'était une demi-molle pour ce premier Star Trek de J.J. Abrams, qui te dit moi c'est le reboot total, on fout du Spock commandant en chef, ce sera Kirk qui sera le commandant en second, rien à foutre, on fait le gros reboot, gros passage dans un retour dans le temps par les Romuliens et tout. Et à la fin du film, qu'est-ce qu'on avait? Eh ben tout le roman entre dans l'or, le Kirk qui redevient numéro 1 et le Spock qui redevient numéro 2. Haha. Et bien vous avez foutu du reboot, c'est pas du reboot, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va avoir avec ce film numéro 2? Je m'adresse à du sport, je vais essayer de faire attention parce que tu ne l'as pas vu. Moi, on reste dans la demi-molle ou pas?
Moi, je vais juste dire l'impression générale. C'est un film choral. Et chacun a son rôle.
Ça à chaque fois.
Non, mais là, c'est vraiment de ce côté-là. Il y a des bonnes vannes. Franchement, même au moment les plus dramatiques, sur l'écriture, franchement, on se pisse dessus de rire. Il y a de belles scènes qui sont des belles scènes héroïques et tout ça, mais finalement c'est pas ça qu'on retient le plus et c'est ça qui est agréable.
Non, on retient le plus le côté crypto gay entre Spock et Kirk. Bah oui, il faut appeler un chat.
Il y a une bonne partie à trois en plein milieu.
Oui, mais alors c'est marrant parce que normalement les triangles amoureux, c'est toujours la nana qui sait pas choisir entre les deux mecs. En fait, là tu vois que Spock il sait pas trop choisir entre Uhura et Kirk, en fait, j'ai l'impression.
Et Kirk qui se fait de nana, pardon.
Avec des queues. On parlait des queues de Spock. Voilà. Non, alors pas du tout de second degré dans le mot queue, c'est vraiment la queue au premier degré, voilà, derrière. Bon, bref. Donc, alors moi, selon moi, bon, déjà le film il commence mal parce que selon moi l'introduction est complètement ratée parce qu'on est dans un pays d'autochtones avec la peau peinte en blanc, avec une peinture qui se raquelle et en fait tu vois Kirk et McCoy qui sont sur une planète exotique, qui ont dérobé un parchemin, on ne sait pas trop pourquoi, à des autochtones qui visiblement vénéraient ce parchemin. À la fin de la course poursuite, ils abandonnent le parchemin parce que finalement c'était pas si important et tu découvres qu'ils étaient en mission d'infiltration avec l'Enterprise qui était sous l'océan, et quand on sait après dans le film qu'ils peuvent téléporter des gens, tu te dis what the fuck, tout ça pour ça. Donc c'est vrai que pour la cohérence, cette intro à la manière des James Bond, très explosive, on te plante le décor et tout, bah là ça sert, on sait pas à quoi ça sert, hein, à part juste pour introduire que Kirk, le côté chaud bouillant, le côté instinctif, au détriment de l'aspect totalement raisonné de Spock, c'est ce qui lui vaut un peu une rétrogradation par Starfleet, parce que faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. C'est bien le côté sanguin, mais à un moment donné, quand t'as un vaisseau qui coûte très cher et un équipage derrière, faut arrêter de déconner. Donc bon, là, mon cœur qui va devoir, au cours du film, un petit peu réviser son rapport au commandement, réviser ses priorités, son rapport au monde, à la hiérarchie. Et c'est vrai que c'est un petit peu un côté introspectif. Justement, en mettre en parallèle, justement, avec le côté très 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 raisonné, peut-être un peu trop de Spock, ce que lui reproche d'ailleurs sa petite amie Uhura, qui lui dit « Ouais, ce serait bien que tu sois pas... » Toujours froid, parce que je commence à en avoir ras la casquette. En gros, j'ai bien résumé. En gros, c'est un peu ça, hein. Bon. Sinon, le personnage qui est introduit dans ce film, donc c'est Harrison, donc un gars qui est un peu ambigu, terroriste méchant, terroriste romantique, on sait pas trop. Donc voilà. On vous laisse la surprise pour découvrir ce qui se rattache à ce personnage.
Sinon, c'est pas drôle, même si ça a été largement annoncé lors de la promo, mais non, c'est mieux de le découvrir et de se dire bon, ok, comme ça, il y a des idées qui sont bien amenées, bien avancées. On retrouve quand même le Kirk très fonceur, hein, de la série originelle. Spock nettement plus froid, hein, qui maîtrise beaucoup mieux ses émotions que dans le premier épisode.
Oui, bon, enfin, dans le premier épisode, ouais, ben oui, parce qu'on voyait un peu qu'il était l'héritier d'un carnage, quand même, il arrive à le pousser à bout à Spock dans le premier épisode, et c'est ce qui vaut à Spock d'être second uniquement à la fin du film. Mais c'est vrai que le sous-texte de ce deuxième opus, c'est vraiment où se situer par rapport à la maîtrise des émotions, quoi, puisque justement. Le film fait référence à un film célèbre de l'ancienne série de films, où tout le concept était dans le titre aussi, et c'est vrai que par rapport aux fans qui attendaient d'avoir un pseudo reboot dans celui-là, ça tord un petit peu le concept, surtout vers la fin.
Oui, je suis pas du tout d'accord sur l'idée de reboot. C'est on va vers une réalité alternative, sachant qu'il y a des références. Ce qui est arrivé dans l'autre réalité.
Oui, je suis d'accord avec toi que le côté reboot, je l'appelle reboot parce que ça a été vendu comme ça, mais ça n'en est absolument pas aucun, ça c'est sûr. Sinon la réalisation J.J. Abrams, ça reste avec son lens flare et son côté,
j'en ai rayé mes lunettes, hein.
et son côté punchy de ce qui fait sa marque de fabrique, hein, c'est les punchlines du scénario, les trucs où tu te dis il y a tout qui peut péter, tout qui peut arriver, avec cette intro terroriste qui est selon moi la vraie intro du film, qui est vraiment efficace puisqu'on voit où le larmoyant se mêle un petit peu à l'action, et puis on voit ce père de famille complètement désespéré qui lance le film en fait. Et c'est vrai que tu t'en prends plein les mirettes pour ce début d'action.
On a quand même face à face un qui a failli devenir un docteur et un ex-compagnon du docteur.
Oui, voilà.
Il y a de l'anglais dedans.
Ouais, deux acteurs en référence à la série Doctor Who. Sinon, moi, à un moment donné, au milieu du film, j'ai eu une impression d'assister à une espèce de bouillie, c'est-à-dire que ça a bougé dans tous les sens. Je trouve que les sautes de rythme et la gestion vraiment de la rythmique n'étaient pas vraiment si bien gérées que ça, parce qu'à un moment donné, les infiltrations, les allers-retours entre les vaisseaux et tout, tu à un moment donné, tu dis arrêtez, ce serait bien qu'il y ait trois personnages qui parlent à un moment donné et que ça bouge plus, parce que à un moment donné, à force de courir de partout, ouais, ça suffit un petit peu. On vous passe les incohérences scénaristiques avec justement,
c'est normal.
Voilà, on évoquait tout à l'heure cette espèce de passage dans l'espace au milieu des débris. Qui est cinématographiquement très très bandant, mais après quand tu te poses la question mais pourquoi ils ont fait ça en fait, voilà. Après la disparition momentanée de certains personnages pour qu'ils reviennent mieux à la fin du film, tu te dis ah mais oui, mais ça se sentait à 3 km. Voilà. Bon,
un choix. Ça reste du grand public, hein.
Oui, un chouette petit objet qui casse pas des briques, correctement réalisé. Qui est professionnel, qui remplit son office, franchement, avec quelques scènes gratuites qui ravira les amateurs d'héroïne en sous-vêtements. Bon voilà, ça reste quand même du très très soft, mais il ne faut pas oublier que c'est
le
ça.
Cahier des charges Hollywood.
Le cahier des charges avec une nana qui est obligée de se changer en combinaison spatiale et absolument. Comme par hasard, le personnage masculin de la scène ne peut retenir un petit peu un regard en coin.
Ben voilà. Oui, parce qu'il se trouvait là juste au... À ce moment-là, comme par hasard.
Ben ouais, oui. Et voilà, ce qu'on pouvait dire du film sans trop spoiler. Je sens qu'on va franchir la ligne.
Après, ça ne vaut pas ce qui est écrit sur l'affiche, le spectacle total, etc.
Non.
Mais par contre, c'est un très bon moment et on se fait vraiment plaisir.
Après,
Thomas ne connaît pas la série, visiblement. Tu l'as apprécié ou tu l'as pas apprécié?
J'ai apprécié autant que j'avais apprécié le 1, c'est-à-dire que tu passes un bon moment, voilà. Tu penses à ce que t'as bouffé avant, après, tu reviens, t'es content d'avoir passé une bonne soirée, une semaine après t'as un peu oublié.
Voilà.
Bon Xavier, on a eu un message.
Plein de messages, il y a Kissing qui demande si on a parlé de Q, il y en a qui ont dit si on avait plein d'épisodes. Et il y a donc Nathalie qui nous a demandé si on avait parlé de... attends, je reviens dessus.
Je vais quand même
Il faut voir le remake de l'épisode des Tribbles dans DS9 avec le crossover DS9 classique qui est considéré comme mythique.
Ouais, alors c'est un épisode qui avait été tourné à l'occasion pour fêter les 30 ans en fait de Star Trek. Ça correspondait aux 30 ans de
on
Star
les
Trek.
Là, les
Tribbles. Et donc on avait décidé de faire un espèce d'épisode qui était hommage... Mais en fait, il n'y a pas eu de réapparition des anciens acteurs et tout ça de la série originale, voire des séries précédentes, mais simplement des extraits de la série originelle, les extraits de ces fameux Tribbles, de cette fameuse de fameux épisode où il y avait les Tribbles, donc qui étaient diffusés, mais qui faisaient partie de l'histoire de cet épisode. Je veux dire, c'était assez bien foutu, vraiment très très bien foutu.
Et
c'était pour marquer le coup donc des 30 ans de la franchise de Star Trek.
Bon, on va nettoyer avant qu'il y en ait partout. J'ai un petit cadeau pour toi du sport.
Je voulais juste signaler que bon, si vous voulez, si vous êtes vraiment un petit peu féru de Star Trek et de science-fiction en général, il y a un bouquin à avoir, mais c'est une bible ce truc, mais il doit être réactualisé assez souvent. C'est l'encyclopédie du Sci-Fi Channel. De la science-fiction à la télé, 50 ans là, il y a 50 ans de séries télé de science-fiction à la télé et il y a absolument tout hein, tous les interprètes, les réalisateurs, le nombre d'épisodes, enfin tout, c'est vraiment très très bien foutu quoi. Mais c'est un bouquin qu'il faut avoir si vous vous intéressez un petit peu à ce genre de truc là.
On va continuer sur la science-fiction.
Juste pour rappeler les références, pas du film, mais des références qui nous ont aidés à préparer l'émission. Moi, tant qu'on est à signaler les sources, donc je recommanderais l'excellent site qui s'appelle cloneweb.net. dont ils ont fait tout un cycle sur Star Trek qui m'a bien aidé à rattraper un petit peu en retard. Voilà, cloneweb.net, on vous mettra la référence sur les réseaux, la référence du site.
Et moi, le professeur de la Hoyd, sur donc les références Shakespeareanes dans Star Trek. Et tous les samples sont extraits, sont téléchargeables du style Trekcore. On a mis les liens justement sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs si vous cherchez dans le supplément week-end, dans le lien Overblog. J'ai un petit cadeau pour toi du sport. C'est un blogueur français qui s'appelle PV Nova. Sa spécialité, c'est faire des vidéos où il raconte en 5 minutes comment faire un morceau à la manière d'eux. Et là, il a fait une évolution de Get Lucky des Daft Punk. On commence en 1920, on va finir en 2020. C'est pour toi, ça a écouté vraiment au casque. C'est du bonheur.
Has no rebound. Your gift keeps on giving. But what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Daft Punk remixé en 2020 par PV Nova, Evolution of Get Lucky. Donc on est parti de 1910, donc il y a tout, Charleston, ouais, Rockabilly, ouais, et tout ça, mais c'est plutôt pas mal. Oh, c'est un beau boulot.
Les machines ont remplacé l'inspiration, tu vois, c'est beau.
Oh, oh.
Mais ceci est un autre débat. Allez, une petite sélection de films space à la télé.
Ah,
pas que, mais enfin, ouais, bon, des trucs un peu space.
Sans space cake, attention,
sans space cake. Alors déjà, tu vois, paradoxalement, ton intro, là, ton morceau, il colle tout à fait avec le début, la première sélection. C'est ce soir sur Arte à 23h20, ça s'appelle The Birth of Rock. Un documentaire de Stéphanie Schaeffer qui date de 2010, mais qui est vraiment très très bien, hein, qui évolue, qui étudie un petit peu l'évolution de la musique jusque au rock'n'roll, quoi. Donc les ancêtres, c'est assez bien foutu, quoi. Ça vaut le coup de se regarder. Sinon, ce soir sur Ciné Plus Star, là, on va être dans les étoiles avec d'abord à 20h45 L'Homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Roeg en 76. David Bowie qui joue le rôle d'un extraterrestre qui arrive sur Terre. parce que leur planète a un problème d'eau, mais eux ils ont le pouvoir et tout, il va acquérir un pouvoir énorme, mais il va se rendre compte que tout ça n'est
pouvoir financier.
Financier, mais tout ça n'est que vanité. Tout, enfin bon, c'est vraiment un très très beau film avec outre David Bowie dont c'est le premier grand rôle au cinéma, hein, et en plus premier rôle quoi, avec Rip Torn, avec Andy Clark également et Buck Henry.
Un grand moment. Ouais.
Suivi, bon, il a été multidiffusé, mais enfin pour ceux qui l'ont jamais vu, ça vaut le coup du concert d'adieu de la tournée de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, filmé par D.A. Pennebaker en 73, sinon ce soir également sur Cinéfix, dépêchez-vous parce qu'il en reste plus des masses, Star Trek Voyager à 21h30, c'est la saison 7 et vous pourrez regarder les épisodes 4 et 5 de cette saison 7.
C'est dur parce qu'il y a Doctor Who sur France 4, il y a... Il y a putain sur NT1, il y a Fringe, il y a beaucoup.
Ouais ouais, alors et en plus ce soir il y a 5 épisodes de Doctor Who, hein, mais un petit peu dans le désordre, on va dire saison 7, mais un petit peu dans le désordre.
Super.
Bah oui, c'est comme ça. Demain sur France 4 et la semaine prochaine, devinez de quoi on va vous parler. sur France 4 demain à 20h45, Superman Returns, puisque Superman débarque mercredi.
Ah, hein, déjà.
Ils font un week-end quasi complet sur Superman et là ils passent toute la série des années 90.
Oh, non,
en
non,
animation
non,
qui est vraiment
oui,
agréable.
Oui, la série est pas mal. Ouais.
Ouais, la série est bien.
Donc c'est celui de Bryan Singer qui est bien. Moi j'ai bien aimé. Quoi.
Ouais, il était bien. Un peu,
franchement quoi.
Un peu mou mais c'était assumé.
Voilà. Mais c'est ça quoi qui
c'était
était.
Plein de charme, bien fichu.
Et surtout le final qui bon.
Ouais. Avec, avec le petit.
Ouais, ouais. Le final quand même. Bon, ok. Suivi d'un documentaire de Dimitri Grimbla, Super Héros. Comparaison entre la science des super héros, ce qu'ils sont capables de faire, et ce que peut vraiment faire la science, et ce qu'on pourrait éventuellement faire à la manière des super héros.
Pendant ce temps-là, sur Capital, un sujet sur la sécurité sociale des super héros, laquelle couvre le mieux des accidents de kryptonite et tout ça.
Ouais. Et sur la 6, dans Enquête exclusive, les super héros à Cap d'Agde, le Club Libertin,
sexe, drogue.
Allez, je termine la soirée de France 4 après Super Héros le documentaire Astéroïde, un téléfilm de Paul Ziller avec Kirk Acevedo qu'on a vu dans Oz et Diane Farr. Sinon demain soir sur Cinépus Frisson, un petit Universal Soldier de Roland Emmerich.
Hein. Oh bah ouais.
Vous l'avez toujours pas vu ?
C'est du space baston, mais c'est du space quand même.
Collection d'oreilles.
Je tiens à signaler que dans le genre horreur, personne n'a pensé à décrocher l'affiche Banlieue 13 Ultimatum que Thomas a accroché samedi dernier.
Non, par contre, il y a quelqu'un qui a marqué goût de cette merde.
Ouais, goût de cette merde, il a marqué.
Avec une photographe, je le précise.
Lundi, un seul film sur Cinéfix Time Crimes de Nacho Vigalondo, un espagnol qui joue également d'ailleurs dans son film, avec également Cara Elejade et Candela Fernandez. Alors, vous racontez le film, c'est vachement compliqué parce que c'est l'histoire d'un type et de sa nana qui doivent travailler dans une campagne un petit peu reculée, montagne et tout ça, on imagine la Navarre, on va dire, hein, puis ça se passe en Espagne, donc vous voyez, un petit peu les Pyrénées, quoi, pas grand monde. Et il va se rendre compte au bout de certains événements fortuits qui arrivent et qui commencent un petit peu à le faire chier, genre il s'arrache les mains et il retrouve sa nana violée et puis il se dit bon, c'est dans le désordre, il y a des trucs qui déconnent, c'est-à-dire qu'il y a des cassures dans le temps, quoi. Il se rend pas compte comment ça se produit, il va essayer de comprendre pourquoi, mais d'autres éléments se rajoutent au fur et à mesure. Et qui sont pas forcément des éléments postérieurs mais des fois antérieurs, et c'est pour ça que c'est très difficile à raconter comme film. C'est vraiment très très intéressant, c'est filmé un petit peu, pas vraiment en noir et blanc mais enfin vraiment avec un filtre gris
En temps rompu.
Ouais non mais c'est vraiment c'est vraiment un petit film assez intéressant à regarder. Donc c'est lundi sur Cinéfix à partir de 21h. Mardi sur NT1, Superman 3, celui avec Richard Pryor et Robert Vaughn, quoi, donc beaucoup de rigolade et tout, quoi, hein, et réalisé par le même mec qui a fait les deux autres, de toute façon Richard Lester, et qui nous a fait également Quatre garçons dans le vent, les Beatles, bien sûr, Richard Lester. Dès 17, bonne soirée avec tout d'abord à 20h50, Mercenary, c'est le titre français, mais le titre original c'est Mercenary Fort Justice de Don Fauntleroy. avec Steven Seagal et Jacqueline Lord. Alors, histoire de mercenaires, en fait, comme vous l'avez compris. Alors, au début du film, quoi, ils sont, lui, Seagal et sa bande, ils sont un petit peu encerclés parce que ils essayent de délivrer une île qui veut son indépendance. Et les méchants français, ils sont là, ils veulent garder l'île, donc ils se battent contre les Français. Hein, donc, t'imagines, à la place du mercenaire qu'on a eu aux Comores et tout, quoi, t'imagines Steven Seagal qui débarque là-bas et qui dit non, les Comores seront indépendantes, quoi. C'est un peu le même concept, quoi, tu vois. Et c'est un film qui est assez rigolo, quoi, dans la filmographie, quoi, de Steven Seagal avec Jacqueline Lord, donc que tu sais pas au départ s'il est avec lui ou si elle est contre lui, mais qui est également une mercenaire. Donc t'imagines un petit peu, petit short moulant, petite chemise échancrée. Bien sûr, hein, grosse mitraillette.
Il faut être à normal. L'aise dans ses mouvements quand on va faire une guérilla.
Et il faut être dans l'air du temps. Par voilà. Contre, celui qui suit, qui est également un Donald Fauntleroy, c'est de la même époque, hein, celui de Mercenary 2006, et Today You Die, il est de 2005. Là, c'est avec Anthony Trichris et Nick Mancuso. Là, on est plus dans le monde des... c'est d'ailleurs un film dans lequel Seagal... Au départ, il joue le rôle d'un méchant, puisqu'il joue le rôle d'un voleur, quoi. Donc, on se dit, bon, ok, quoi, ça change un petit peu des rôles où il est toujours, c'est le bon, quoi. En fait, c'est lui qui va rendre la justice, à sa manière, bien sûr. Mais bon, c'est quand même lui le gentil. Alors que là, il est du mauvais côté, hein. Et en plus, avec Nick Mancuso, je t'explique pas, quoi. Mais par contre, il y a quelques petites, réparties, que vous aurez pas, parce que moi je les ai en anglais, là ça va être la version française, mais qui sont assez intéressantes, en plein milieu d'une fusillade, il y a un type qui tire, et puis bon, il a plus de cartouches dans son flingue, et puis t'as l'autre qui lui sort, oh, you run out of gas, ah hell no, today you die, motherfucker, little bitch, d'où vient le titre du film, d'ailleurs, vous avez compris. Où il y a également les pensées philosophiques, les sigalogies, telles que I just think not all spirits are malicious. Voilà. Tout ça, donc, dans Today or Die, c'est sur D17 mardi prochain à 22h30, sur TF6 toujours mardi prochain, les Riddick Chronicles de David Trouille. Donc, excellent.
Très bien.
Excellent. Sur TCM. C'est la soirée des chefs-d'œuvre du cinéma américain, avec tout d'abord le Adieu ma belle de Edward Mitrick, l'adaptation de Chandler de Adieu ma jolie, la première qui scénarisée par Chandler, avec en plus Dick Powell dans le rôle de Marlowe. Mais de quoi se moque-t-on? De personne, c'est absolument magnifique, excellent film. Il y a eu un remake qui a été fait dans les années 70 avec Mitchum dans le même rôle de Marlowe, donc Mitchum qui est déjà bien vieux. Et le film aussi se laisse agréablement regarder. Donc, suivi de La Nuit du Chasseur, tout ça c'est sur TCM, mardi prochain. Donc, deux gros films, là, il y a rien à dire. Mercredi, sur Syfy, The Lost Future, de Michael Salomon, en 2010, avec Sean Bean. Et ça vaut que parce qu'il y a Sean Bean dedans, quoi, de toute façon. Hein. Et Corey Sevier un petit peu aussi, quand même. Hein, histoire de bandes qui vont essayer de post-apo, qui vont essayer de sauver la race humaine, parce qu'il y a un virus qui a tout décimé, quoi. Mais Sean Bean, il n'est pas d'accord. Donc, il va tout faire pour que ça se passe pas. Sinon, on a également sur Disney Cinemagic. Tiens, j'ai l'impression que je l'ai foutu deux fois celui-là, quoi. Disney Cinemagic, mercredi prochain, Les Copains de l'espace de Robert Vince avec Bill Fagerbach, Kevin Weissman, mais c'est pas eux qui sont les personnages principaux, c'est bien entendu le boule terrier et les cinq chiots qui vont partir dans une capsule spatiale. Eh oui. Jeudi sur D8 à 20h50, le 13e guerrier de Mac Tiernan. Là aussi, c'est Space, quoi. Disons, la deuxième partie, surtout. Hein. Et il y a Omar Sharif dedans. Bon, tu vois pas longtemps, mais
oui,
bon.
Oui, il y a des chamans et tout. C'est Space,
quoi. Oui, c'est Space, quoi.
Ouais,
ouais. Franchement, mais il faut voir la version de Mac Tiernan. Faut pas voir la version qui est
elle
sortie.
Elle existe, la version Mac Tiernan.
Ben oui, justement, elle est sortie. Ils ont sorti la nouvelle version en DVD. Quand il y a eu la ressortie de DVD à un certain moment. Vous pouvez justement avoir cette nouvelle version, parce que la première, celle qui est sortie au ciné, elle
la
avait
version
été
Crichton.
Voilà, un peu amputée, on va dire, normal, hein, Crichton, il travaillait dans le milieu médical.
Ben voilà. Oui. Enfin non, il était pas avocat le mec.
Non, il était médecin.
Il était tout bib ou un truc comme ça dans un hosto, quoi. NT1 toujours jeudi prochain, 20h45, Transformers, pas mal, mais en but. Pour bien commencer la soirée. Pour s'échauffer avant Trax en merci, Kill Switch en version originale. Celui-là, il est fait par Jeff King. Le scénario est de Steven Seagal, ouais, s'il vous plaît, et c'est celui où il y a Isaac Hayes dedans, Chris Thomas King et Oli Dignar. Chris Thomas King, qui d'ailleurs n'est pas un acteur, mais qui est un bluesman de la New Orleans assez connu d'ailleurs pour jouer dans le film Ray de Taylor Hackford et également dans Oh Brother des frères Cohen en tant que musicien quoi, s'entend quoi.
Okay. Hein, bon, okay. Et dans le Seagal il fait pas un musicien.
Et non, il fait pas un musicien. Quoi. Et,
dommage, il est pas mauvais.
Non. Mais bon, il est pas trop mal quoi. De toute façon, c'est Steven Seagal qui est flic et qui cherche des tueurs en série. Il va choper le premier, mais en fait c'est pas le bon, c'est pas celui qui poursuit, c'est un autre. Oh, c'est pas grave, bon, on le ramasse quand même. Bon voilà. ça c'est sur NT1 donc sur 13ème rue si vous êtes pas d'accord pour regarder Transformers en première partie de soirée, que vous décidiez de vous faire une partie, une soirée complète Steven Seagal, eh ben sur NT1 sur 13ème rue il y a Dangerous Man de Kenny Waxman. Là c'est déjà l'époque on va dire presque Urban Justice, tu vois quoi. Donc
sur la fin, ouais.
Voilà, sur la fin quoi. Celui-là il est 2008 donc avec Byron Mann, Terry Chen et c'est un truc où c'est un espèce d'homme de main, il faisait partie de la CIA, il a été injustement condamné, il a fait 14-15 ans de trou, il sort, il est pas content. Donc il va s'allier avec une mafia russe plus ou moins pour une histoire de vengeance par rapport à la mafia chinoise ou bridée parce que ils veulent leur piquer leur trafic et tout quoi. Mais enfin bon, il a peut-être une autre idée derrière la tête hein, parce que c'est Steven Seagal quoi. Et il y a quand même la réplique qui tue quoi dans le film, c'est I'll fuck you up ugly. Et il y a aussi la description qui est faite du personnage de Steven Seagal. He's just out of the joint. Il vient juste de sortir du trou. And guess what? Et devine. He's ex-special force, un ex des special force. The guy is a fucking killing machine. Ça, j'ai pas besoin de traduire. Bon, voilà,
ouais,
ça
non,
c'est
besoin,
Steven Seagal, donc Dangerous
Man. Quand même
Man.
La citation la meilleure de tous les Seagal, c'était dans Piège et Rottmer, et il y avait un gars qui disait son dossier est tellement top secret qu'il a même pas marqué top secret sur son dossier.
On continue jeudi sur Ciné Plus Club. Enfin, il a fallu attendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. 2 mois pour qu'on ait enfin un film de ce réalisateur disparu dont on a fait une émission spéciale, Jess Franco, sur Ciné Plus Club jeudi prochain, les expériences érotiques de Frankenstein avec Howard Vernon, Donna Price et Béatrice Savonne. Jeudi toujours sur Polar, Les Tueurs de Robert Siodmark, un film magnifique, excellent, tiré du roman de Hemingway, To Have or Have Not, En Avoir ou Pas. Alors, en avoir ou pas de quoi, vous ne le savez pas tant que vous n'aurez pas lu le bouquin. Et vous saurez si vous en avez ou si vous n'en avez pas.
D'accord.
C'est ça qui est important, quoi, en fait. Mais le film est excellent, de toute façon, Ava Gardner, Brut Lancaster. Bon, et c'est suivi, j'espère que tu as préparé le morceau musique.
Il est là
sur TCM par le chanteur de jazz, premier film de l'histoire du cinéma. Parlant.
Intégralement parlant et surtout chanté.
Et surtout chanté avec Al Jolson, qu'on écoute chanter. Une chanson extraite du chanteur de jazz, My Mommy.
Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray, but wait until you are further away. Things won't be so lovely when you're far from home. Here's what you keep saying when you're all alone. Mammy, mammy, the sun shines well, but I know where the sun shines best. Mammy, mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a coming. Sorry I made you wait. I'm a coming. I hope and trust that I'm not late.
me.
On passe régulièrement, hein, quand même, la bande originale de ce film. Je me suis rendu compte que ça m'est arrivé au moins tous les 3-4 mois dans cette émission.
Ah bon ?
Ouais. En fond sonore, des fois, ou juste comme ça.
On termine cette sélection télé avec vendredi prochain sur RTL9 à 22h30, The Thing de Carpenter. Bah ouais, hein, c'est space, hein, puisqu'on sait pas d'où ça vient, The Thing, quoi. Ça vient de l'espace.
Ben, on le voit que ça vient de l'espace au début, ouais.
Ouais, ouais, mais enfin bon, on sait pas si ça va vraiment de l'espace. C'est peut-être un truc qui a été balancé d'autre part et puis qui est retombé, quoi.
Ah, mais
eh ouais, bah oui. C'est peut-être une expérience, on sait pas, quoi. Sur Gulli, toujours vendredi prochain, Rex, le cyberchien d'un certain Georges Miller, qui a fait beaucoup de films pour les enfants.
Il a fait pas mal de trucs différents, le mec, hein.
Ouais, ouais. Alors bon, en fait, ils ont pris l'homme qui valait 3 milliards plus Super Jamie. Ils se sont dit, bon, bah, ok, on n'a pas encore fait le chien. Donc, on va faire le chien. Et c'est l'histoire d'un chien, d'un petit gamin qui interprété par Ryan Coogler qui se fait renverser. Et donc, bah, ils le reconstruisent entièrement bionique. Le chien bionique, quoi. Il y a également Judd Nelson. Dans ce film qui passe donc sur Gulli vendredi prochain à 20h45.
C'est pas qu'un film d'ailleurs, il y a une série télé.
Ouais.
Alors, ça a été la souffrance de le regarder.
D'ailleurs, en parlant de Georges Miller, il y a le trailer de l'adaptation vidéoludique du prochain Mad Max avec Tom Hardy dans le rôle de Max qui est sorti. Et on peut y voir, en fait, c'est un soleil de plomb dans le désert avec ce qu'on suggère être Mad Max qui crame une clope. Et puis il y a un gars qui est à moitié mourant qui lui dit achève-moi. Et puis il regarde son fusil à pompe, il n'y a plus qu'une balle. Il dit bah, je vais pas gaspiller ma balle et tout. Et puis il s'en va avec la bagnole. Et puis au dernier plan, en fait,
il fait marche arrière.
Il écrase le mec. Avec la bagnole, voilà. Mad Max.
Ouais. Je termine avec vendredi prochain sur Ciné Plus Premier, Mélancolia de Lars von Trier, Kirsten Dunst, Gainsbourg, Charlotte, bien sûr, et Kiefer dans un Lars von Trier.
Comme quoi. Et c'est à l'occasion de du passage de ce film à Cannes qu'il avait dit qu'il avait de la sympathie pour Hitler.
Voilà, ouais, c'est tout à fait. Bon, on reviendra pas là-dessus. Hein, bon. C'est un autre propos. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai rien oublié, quoi. Donc, la semaine prochaine, ce sera certainement vachement plus sanglant, quoi. À mon avis, quoi.
Ouais, moi aussi, j'ai un truc.
Je pense même qu'on sera plusieurs à en parler, quoi. D'ailleurs.
Non, si on se met en 16 mois, on va avoir des problèmes pour cette heure-ci. C'était donc le supplément week-end, numéro 352.
Achtung, Achtung, B-Alarm.
Et ma foi, Thomas, est-ce que tu peux faire un résumé ?
Eh bien écoute, tout à fait, nous avions du Star Trek à tous les étages, l'historique de la production, les épisodes marquants, les séries de l'univers, de la transformation en Borg, des phasers, des téléportations, des pyjamas, le film du reboot en demi-molle, un quiz et demi, une faute d'orthographe sur une affiche, une cigalogie, du top secret de la fucking Death Machine, et pour finir, des chiens dans l'espace et cyber.
Nom d'un phaser, tricorder, fréquence B. Vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, noter toutes les conneries qu'on a pu y dire, nous flinguer, nous insulter, poser vos questions, laisser vos commentaires, n'hésitez pas, ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous permet de continuer, ça nous donne l'énergie qui va avec. Il suffit d'aller sur le site web suppléments-weekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, 31 ans et demi que nous sommes en direct. Et nous serons ce soir en direct de Mixar Myris pour l'anniversaire de la radio. Je sais pas s'il y en a qui viennent, il y a du barbecue, il y a de la fanfare de filles, il y a de l'expérimental, il y a de la peinture au canon, il y a du post-punk albigeois. Bref, des trucs vraiment complètement flingués et délirants. Dans le prochain épisode, donc, du sang, une histoire d'orpheline, des trucs comme ça, ça va être super gay, vous allez voir.
Bref, je crois qu'il y aura des singes aussi.
Ah, super. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, donc, non, même heure, même fréquence sur cette radio. Merci à tous et profitez bien de ce Radio Rété.
Radio Rété.
Radio Rété. Adieu l'été. Et désolé, elle est nulle. Allez, hop, du sport de suite. Et dans la bande son là qu'on va laisser tourner, ben See the Movie. Et l'amarrage en direct de l'ATV4 se fera dans 51 minutes sur le site du CNES. Donc on regrette de ne pas avoir fait émission avec eux. C'est partie remise, premier juré. On fera une très belle spéciale en leur compagnie, on le souhaite bien. Ce sera intéressant.